et bienvenue dans Gameblog, l'émission, le podcast, je ne sais pas, appelez-la comme vous voulez. En tout cas, c'est le numéro 507 depuis tout ce temps, mon cher Plume. Toi, tu te posais la question il y a deux secondes.
Ouais.
Tu disais, putain, déjà ?
Ouais, déjà, ouais.
C'est fou, hein,
c'est
voilà,
incroyable.
507.
Oh là là.
C'est dingue, hein ?
Ouais.
C'est bon, c'était bien les vacances ?
Bon, comme d'hab.
Bah, c'est fini, là, ça y est.
Tant que c'est loin de vous, tout
c'est
passe
vrai
bien, ouais. Vraiment.
Plume, mesdames et messieurs. Thomas, qui est là aussi.
Qui n'est pas parti en vacances.
Compagnon.
Mais
déjà accompagné, pardon. Ouais, tout à fait. Tiger.
Salut.
Qui vient nous dire un petit coucou, qui va nous parler de plein de choses super intéressantes. Et Camille, qui fait
Salut.
Son grand retour intersidéral.
Ah, c'est vous ?
Bah oui.
Et
ah,
qui va nous parler d'un jeu qui a fait pas mal polémique. Mais on va vous en dire plus dans quelques instants.
Ça tombe bien parce que Camille aussi fait souvent polémique.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah bah, surtout au sein de la rédaction.
Je veux pas savoir pourquoi, mais c'est pas grave. Et bah, comme d'habitude, on va avoir plusieurs thèmes, dont un qui est tombé quelques instants avant qu'on enregistre le podcast.
C'est le breaking, hein.
C'est le breaking news, c'est la PlayStation 5.
Il break le win and fail. Voilà,
la PlayStation 5 qui livre enfin sa période de sortie, on va dire. En tout cas, c'est officiel, le nom.
Et son nom officiel.
Son nom, pas mal de détails aussi qui ont été dévoilés. Mais ça, on vous en dira plus tout à l'heure, il n'y a aucun souci. Et puis les rubriques habituelles, évidemment, avec les 10 ans de Gameblog. Il y a 10 ans sur Gameblog, pardon. Et les thèmes, ce sera évidemment Ghost Recon Breakpoint. Donc Camille va revenir dessus, sur lequel Camille pardon, va revenir dessus, parce qu'effectivement il y a pas mal de choses à dire sur ce jeu où tout le monde n'est pas forcément d'accord. Les thème numéro 2, ça sera tous les tests que Tiger a pu faire.
Voilà,
c'est un thème entier. C'est Tiger qui va nous en dire plus sur tous les jeux qu'il a pu tester et que vous retrouvez sur Gameblog.
Cet homme est une rubrique à lui tout seul.
Ouf. Exactement. Et le thème numéro 3, ça c'est entre guillemets un petit jeu dont Plume nous parlera, Ring Fit Adventure. Que t'as pu tester directement
ouais.
Sur
essayer,
place.
Essayer, tester, oui. T'as mis un grand mot. Hein.
Bah, t'as testé.
Tester, je serais baraque et tout.
J'ai pas dit que t'avais écrit le test et tout ça.
Ouais,
tu,
mais.
Tu l'as quand même testé.
Ouais,
en
mais.
Vrai.
Si j'avais vraiment testé, je te dis. Je serais baraque, ouais. J'aurais des abdos de ouf.
C'est vrai. Ouais. En 5 secondes, tu crois.
Mais tu les as. C'est juste qu'ils sont dissimulés sous deux couches de fringues.
Ouais, de graisse.
Exactement. Puis il y aura évidemment ensuite l'anniversaire et puis le hors-jeu à la fin avec un truc un peu chelou. Signé Plume, mais on vous en dira plus dans quelques instants.
Pas du tout.
Eh bien, si on commençait tout de suite, non pas par le win et le fail, mais justement par cette breaking news dont on vous parlait il y a quelques secondes, sur la PS5 qui vient enfin d'être officialisée pour une sortie, donc, période de fête de fin d'année 2020. Donc,
fin 2020, incroyable.
D'ici un an.
C'est fou.
Personne s'y attendait.
Alors, personne s'y attendait.
On est tous tombés à la renverse.
Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette console ? Bon, évidemment, il n'y a pas des milliards de choses qui ont été annoncées, mais il y a quand même déjà son nom, sa période de sortie. Quelques détails sur la manette, entre autres.
Bah, tu l'as dit, hein, PlayStation 5, c'est confirmé.
Voilà.
Voilà, on s'y attendait pas.
Non.
On était tous en train de se poser la question.
Ah, elle était pas officiellement appelée comme ça chez Sony. Pour
non,
c'était la prochaine console de Sony. Voilà.
PS5 même. Pas PlayStation 5.
Si, non, c'est les deux.
PlayStation 5 et PS5 entre
d'accord.
Parenthèses pour
toujours.
Jim Ryan. Voilà, il a mis
il
les
a
deux.
Toujours les deux à chaque fois, ouais.
Il a mis les deux, et puis bah, période de fin 2020 pour la sortie. C'est-à-dire en frontal avec la Scarlett.
Normalement, la Scarlett, ouais, la prochaine Xbox devrait sortir au même moment, on va dire.
Là où l'est, d'ailleurs.
Où l'est, console, parce que tout le monde, effectivement, est censé produire deux machines un peu différentes. Mais bon. Enfin, en tout cas, chez Microsoft, c'est ce qui se dit. Maintenant, on va plus en croire de plus en plus aux rumeurs et aux fuites, parce que à chaque fois, ça tombe juste. Donc, Et donc sur la PS5,
bah, Wired a eu droit à une exclusivité.
Exactement.
Qui a permis d'abord de confirmer que le press kit,
le dev kit,
qui a tourné il y a quelques semaines et
que vous voyez à l'image justement
et que était plutôt une rumeur à ce moment-là. Mm. Hein, tout le monde se disait ouais c'est pas sûr que ce soit ça, ça a quand même une drôle de tronche. Visiblement,
apparemment si.
Wired a eu la confirmation que c'était vrai, que c'était une fuite. Donc ça ressemble à ce truc affreux.
Bah, affreux, non, moi je trouve ça sympa.
Bah, excuse-moi, mais enfin.
Bah, pour un dev kit, c'est beau quoi.
On dirait un jouet Smoby.
Non, c'est le futur vu dans les années 70.
Exactement.
C'est un peu Star Trek.
Non, mais je veux dire, pour un dev kit, ouais. C'est pas moche, il y a quand même un petit design. Ils auraient pu faire une boîte dégueulasse.
Dégueulasse.
Carré, dégueulasse. Rectangulaire, tu vois.
Donc, déjà, Wired a pu confirmer ça et plein d'autres infos qui sont aussi sur le PlayStation blog où Jim Ryan justement a mis le lien vers l'article de Wired. Où ils expliquent les spécificités, non pas forcément de la console, même si on sait qu'elle va lire les Blu-ray 4K cette fois, ce qui manque actuellement à la PS4 et la PS4 Pro.
Ce qui est logique en même temps.
Il est temps. Mm. Et surtout, qui confirme donc que la manette va être une vraie manette next-gen.
Oui.
Il y a deux fonctionnalités en particulier. Alors, on peut revenir rapidement sur celles des gâchettes qui vont être adaptives, qui sont un petit peu dans le, dans, on va dire, dans le style de ce que fait la manette Xbox One, avec une résistance qui va être
en fonction
bien
de,
vue.
Votre façon d'appuyer ou pas.
Voilà, en pour les jeux de course notamment, ça peut être une bonne, un bon moyen justement de doser un petit peu ses accélérations et ses freinages. Mais la partie la plus intéressante, c'est le fait que la DualShock 5, je vais l'appeler comme ça,
oui,
mais même
elle n'a
si
pas de nom encore.
Elle n'a pas encore de nom, sera haptique. C'est-à-dire un système qui va reconnaître bien plus.
Fidèlement.
Fidèlement, exactement. Les pressions, les mouvements, enfin, ça va être un truc. C'est le truc qu'on essaye d'avoir depuis des années.
Des battements de cœur, par exemple, des choses comme ça.
Exactement. Hein. Qu'on essaye d'avoir depuis des années, notamment dans la réalité virtuelle, parce que c'est indispensable pour avoir une vraie reconnaissance des choses.
Une immersion encore plus forte.
Et là, l'article explique que voilà, ils veulent se débarrasser des vibrations pour donner accès à l'aptique à la place. Et ça, c'est un truc que tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne peut pas être sûr. Oui. Mais ça peut être assez révolutionnaire. Si c'est bien fait.
L'exemple qui était pris par Jim Ryan, juste pour finir là-dessus, était de dire qu'on sentirait la différence entre, par exemple, marcher dans l'herbe et marcher dans la boue. Ça se verrait à l'écran, mais ça se ressentirait aussi physiquement. Il y aurait un feedback, justement, qui différencierait ce genre de choses. Donc, pour le coup, je vois ça comme un peu une extension des vibrations HD, enfin, quelque chose d'un petit peu plus fin.
Oui, oui.
Et on commence tellement à s'y habituer, je trouve, quand c'est bien fichu dans les jeux, que je les voyais mal ne pas opter pour ce genre de technologie.
Bon, tu sais, à une époque, les vibrations, c'était une technologie du passé. Donc
évidemment.
Rappelez-vous. Qui avait dit ça déjà ?
C'est pas Phil Harrison ?
Si, peut-être si, ouais,
je crois
Phil Harrison.
Ouais.
Le grand visionnaire.
Ah bah, il est plus chez Sony maintenant, donc ils s'en foutent.
Il est chez Google maintenant.
Ouais. D'ailleurs, par rapport à, effectivement, au côté haptique, apparemment, Wired a vu que, ou a su, je sais pas exactement, que sur un dev kit, quelqu'un a essayé Gran Turismo Sport. Donc sur un dev kit PS5, et effectivement ils ont pu voir la différence entre les différentes aspérités du sol en passant de l'asphalte, je sais plus exactement, de l'asphalte à la boue, etc. Et ils ont bien vu que effectivement il y avait quand même quelque chose qui changeait et qui du coup par rapport au jeu actuel sur PS4 faisait quand même une différence quoi.
Donc, bah, c'est un bon exemple parce que t'as les deux cumulés là.
Exactement.
T'as les gâchettes avec la résistance,
exactement,
et l'aptique en conduite.
Tout à fait.
Et puis on a beaucoup parlé des manettes, mais tu parlais des jeux à l'instant. On sait aussi que Bluepoint, le studio qui a pris en charge le remake de Shadow of the Colossus, visiblement travaille sur quelque chose de gros, les citer.
Exactement. Et c'est encore un remake normalement, donc ils vont.
C'est précisé ça que c'est un remake.
Ça fait un
remake
qu'ils ont précisé que ça allait encore être que leur nouveau projet après Shadow of the Colossus allait encore être une réinterprétation d'un jeu d'un classique.
Donc c'est forcément un jeu PS4 alors, non?
Crash Team Racing c'est fait, Medieval c'est fait,
ils ont fait Shadow of the Colossus.
Ils ont fait Shadow of the Colossus.
Bah là je suis en train de me dire.
À part Siphon Filter ou.
Oui voilà c'est ça. Il faut que ce soit.
Ico c'était celui qui semblait le plus logique.
Ouais bien sûr.
De leur part, mais après des classiques PlayStation il peut y en avoir plein. Hein. Même Twisted Metal ça peut être considéré comme un gros truc pour les US. Mais il y a cette rumeur insistante sur si ce n'est Dark Souls au moins Demon's Souls. Qui pourrait être.
Oui, tout à fait. Qui est un jeu Sony alors que Dark Souls est un jeu Bandai Namco.
Exactement. Ouais. Donc Demon's Souls refait en super beau.
Tu crois que c'est assez entre guillemets grand public ça ?
Vu l'aura des Dark Souls aujourd'hui.
C'est une des plus grosses séries de la dernière décennie, hein, les Souls.
Et Demon's
Quand je dis grand public, c'est très grand public. Parce que s'ils veulent faire un truc de lancement
pour
la PS5,
ça peut être l'occasion éventuellement d'adapter
un
petit peu la formule.
Après, tout dépend s'ils ont changé un petit peu leur.
Parce que
Demon's
Souls n'est pas sorti sur toutes les machines, contrairement au Dark, et ça peut être un nouveau.
Bah écoute, les paris sont pris, hein, sont ouverts, on verra bien. Effectivement. Il y avait aussi d'autres détails techniques, notamment que la gestion du ray tracing, du RTX. Voilà Camille, je pense qu'il peut peut-être nous en dire un peu plus, j'en sais rien. Hein Camille, le RTX c'est quoi déjà pour le rappeler à nos lecteurs?
Le ray tracing c'est la gestion de la réfraction de la lumière notamment, qui permet donc d'améliorer considérablement l'image. Pour l'instant c'est accessible, depuis longtemps, mais disons que ça tourne bien sur PC actuellement avec les cartes Nvidia RTX.
Parce que c'est très gourmand comme.
Exactement, les prochaines consoles sont censés gérer tout ça. C'est déjà été annoncé pour la Xbox et ça a été annoncé du coup pour la PS5. Et mine de rien, on dit RTX, ça paraît minime, mais en fait le RTX vraiment, quand on voit certaines images, alors pas forcément les premiers jeux qui sont sortis, par exemple sur Battlefield c'est pas non plus extraordinaire, mais certains jeux comme Metro Metro Exodus, quand tu fais avec et sans, tu vois vraiment la différence. Et c'est vraiment un pas en supplémentaire vers la génération future. Quoi. Mm. Tu sens vraiment une différence.
Donc en fait, les consoles vont pouvoir avoir accès à ça et 5 ans après. 5 ans après les PC.
Ouais, 2-3 ans.
J'exagère un peu. Mais...
En sachant que sur PC, c'est pas encore démocratisé à fond. Hein, puisque déjà, il faut une carte RTX et il y a la moitié des joueurs PC, même plus, qui n'ont pas encore une.
Parce que ça coûte cher, du coup.
Ça coûte cher aussi. Mm. Voilà, il faut attendre avant que ça se démocratise que le matos derrière puisse être accessible à des prix accessibles.
Justement, on imagine qu'avec les consoles qui vont sortir PC, ça va coûter 10 fois moins cher. Quoi.
C'est ça, ouais.
Ce qui est logique.
En sachant que tout ça risque d'évoluer aussi, parce que en fait, on sait, hein, les consoles sont équipées avec du matos, à part la Switch, sont équipées avec du matos AMD. Oui. AMD, eux, si leur programme, ils changent souvent, faut le dire, grâce à Nvidia, parce qu'Nvidia sort un truc, donc AMD, ils
répliquent derrière.
Voilà, ils sont obligés de répliquer, surtout que là, Nvidia a pris une certaine avance sur le haut de gamme, etc. Mm. Et donc, si Nvidia se met à sortir une nouvelle génération de cartes graphiques, normalement, qui s'appelle Ampère, il y a dans 2 ans, techniquement, AMD va suivre, et ça sera sans doute ce qu'équipe actuellement la PS5 en version encore plus haute, quoi, pour un PC. Quoi. Mm. Donc, il faut vraiment voir ce que ça va donner, mais en tout cas, oui, effectivement, le RTX, c'est l'avenir du jeu vidéo. L'un des avenirs du jeu vidéo en termes de technique pure et dure. Mmh. Et c'est vraiment là-dessus que les développeurs sont en train de pousser à mort. Quoi.
Ouais, Thomas, tu voulais rajouter un truc toi?
On a eu aussi quelques petits détails techniques sur l'architecture de la console, en tout cas ce qu'elle allait intégrer. Il y aura évidemment donc un disque dur SSD directement inclus dedans, ce qui va changer la vie de tous ceux qui n'y sont pas encore passés en termes de vitesse de chargement, etc. Et on en discutait juste avant de rentrer pour enregistrer. Il y aurait aussi la possibilité de choisir de différencier les parties du jeu qu'on pourrait installer sur sa console, à savoir l'exemple qu'on a pris, c'était le solo et le multi. Si par exemple comme nous vous vous foutez globalement du multi, et vous pourrez installer que le solo, sauf que l'exemple qui était pris dans l'article qu'on a vu, c'était exactement l'inverse. Vous ne pourrez installer que le multijoueur et vous passez du solo, donc ça permettra aussi peut-être de faire un petit peu de place sur les disques durs, puisqu'on imagine que les jeux vont peser encore bien plus lourd que cette actuelle génération. Et alors après, ce qu'il faudra voir, c'est est-ce que la console sera déclinée avec plusieurs capacités de stockage différentes, comme ça a été le cas au fur et à mesure sur la PS4. Parce que pour ceux qui ont encore leur modèle 500 Go, aujourd'hui c'est un peu compliqué, avec certains jeux un petit peu gourmands.
Gageons sur un 2 Tera de base, peut-être. Parce que les 1 Tera, c'est pareil, je pense qu'à mon avis...
De toute façon, quand tu vois que les jeux maintenant, minimum, les jeux AAA, ils font 50 Go, tu te dis effectivement ça va hyper vite, quoi. Par exemple, Red Dead,
il faisait pas loin de 100 Go.
Il faisait pas loin de 100 Go.
Bah justement, donc on va dire que la base, ça va être 100 Go aussi, peut-être pour un GPS 5. Hein.
Le Xbox, pire, juste par anecdote, c'est qu'il y a 3 ans, quand les développeurs de Star Citizen avaient dit le jeu fera 100 Go, personne n'y croyait, ça c'est énorme et tout. Et en fait, maintenant, on est en 2019 et on voit que 100 Go, ça devient une norme.
La norme, quelque part. Presque
donc,
logique,
donc ça se trouve, dans 2 ou 3 ans, ça montera peut-être à 150, ainsi de suite. Voilà, quoi.
Tout à fait. Et il y aura aussi les batteries améliorées, apparemment, sur la manette.
Oui, batterie et haut-parleur,
Et haut-parleur, là.
Un haut-parleur plus puissant, pour la batterie, c'est clair. Je pense que tout le monde est d'accord sur l'état de la batterie de la DualShock 4, qui est vraiment, vraiment faiblarde à l'utilisation. Là, ils étaient un peu obligés de communiquer là-dessus, je pense. Après, il faudra voir aussi les fonctionnalités haptiques de la manette. Est-ce que ça va contribuer à utiliser un petit peu plus d'énergie à force, il va falloir voir ça. De toute façon, on aura largement le temps d'en reparler, puisque là, c'était, on va dire, une première annonce véritablement officielle.
Tout à fait. Je crois en gros ce qu'on pouvait dire sur la PS5. Après,
Il n'y a plus qu'à la voir. Hein.
On n'a pas vu de jeu, on n'a rien vu de spécial, à part les dev kits là, qu'on voit à l'écran. Donc c'est quand même la grosse annonce, breaking news, entre guillemets, qu'on a pris à la volée, donc du coup à la rédaction, puisque c'est sorti. On est quand on enregistre le mardi, c'est ça? Voilà, exactement. Le mardi, et vous avez la vidéo et l'émission et le podcast le mercredi. Voilà, je sais pas si quelqu'un veut rajouter autre chose là-dessus, ou avec nos petites infos qu'on a pu glaner, on est dessus.
Toutes nos infos.
Ouais, exactement. De toute façon, sur le site, il y a d'autres infos qui tombent au fur et à mesure que nous, on enregistre le podcast, donc il y a peut-être des choses qui sont sorties après, des déclarations, des trucs comme ça.
Ça se trouve, le Knack 3 a été annoncé là dans la foulée.
Exactement.
Hein.
Peut-être que Microsoft a annoncé aussi sa console dans la foulée. Là, tout de suite, on n'en sait rien, mais on fera une breaking news sur le site si ça arrive, il n'y a pas de sujet. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur la PS5 officiellement annoncée donc pour l'hiver 2020, sans prix par contre, sans autres éléments techniques enfin pas technique, pas élément technique, je voulais dire sans autre comment on appelle ça, caractéristique technique, voilà, de la machine. Mais bon, de toute façon on imagine que ça va être une grosse bébête à voir. Donc d'ici quelques mois, j'imagine d'ici le 3, il y aura sûrement des choses qui vont être montrées aussi, ou peut-être un truc spécial, un event spécial PS5 d'ici là. Comme tout est très très secret chez Sony depuis quelques temps, on n'en saura pas plus avant que ça arrive officiellement. Eh bien, il est temps maintenant, mesdames et messieurs, de passer à la rubrique « Il y a 10 ans sur Gameblog ». Et je me tourne religieusement vers un certain Thomas P.
C'était un tournant religieux, ça ?
Exactement.
Ok, bah, tu t'appliqueras plus la prochaine fois.
C'est
parce que...
Ah, ça se voyait pas, mais...
Ouais, c'était un peu...
Je me suis fait avoir.
Un pi, comme virage.
Un pi long. Même.
Tu te paierais pas notre tête par hasard ?
Non, pas du tout, c'est pas ça le genre de la maison. Et donc, il y a 10 ans sur Gameblog, eh ben, ça tombe bien, puisque tout à l'heure, on parlait d'un certain Fumito Ueda, en tout cas, indirectement, à travers Shadow of the Colossus, par exemple. Et pour le coup, eh ben, il y a 10 ans, ce cher Fumito nous déclarait
le Fumit
qu'il était fan de Half-Life 2. Alors en soi, tout va bien puisque c'est un jeu fantastique, mais surtout qu'il aimerait bien faire un FPS. C'est comme ça que commençait la news de Julo, qui qualifiait la déclaration de surprenante et évidemment...
chelou.
Alors, non, pas forcément chelou, mais c'est en soi assez étonnant.
Ou chelours.
Ce qui est moins étonnant, c'est que, eh ben, 10 ans plus tard, on attend toujours le FPS de Fumito Ueda, qui aura été, comme chacun sait, quand même assez occupé sur un certain The Last Guardian.
Qui devait arriver bientôt dans la news. Hein,
oui,
en 2009. Hein.
Ouais, bah à l'époque, il devait arriver bientôt. Ouais, hein,
bientôt en 2009.
Mais sorti, ouais.
On sait qu'effectivement, l'histoire ne lui aura pas donné raison. En tout cas, voilà, c'était une idée qu'il avait dans un coin de sa tête après avoir été assez bluffé en fait par la narration que Valve avait sublimée dans Half-Life 2, narration qui était reprise du premier épisode, mais qui prenait encore un peu plus d'ampleur avec cette suite. Et c'est quelque chose qui l'avait particulièrement marqué. Il avait du coup envie d'essayer de travailler cette narration à la première personne. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Après, peut-être que c'est l'actuel projet sur lequel il est en train de travailler et que ce sera peut-être, allez savoir, un jeu de lancement de la PS5. On n'en sait rien.
On n'en sait rien. Mais peut-être, effectivement.
Tout ceci n'est que spéculation. En tout cas, voilà, c'était le souhait un peu tombé dans l'oubli de Fumito Ueda il y a 10 ans. Et pour relier encore un petit peu avec l'actualité, il y a 10 ans, on s'en souvient pas forcément, mais sortait la PSP Go en France.
Quel bordel.
Et oui, vous l'avez oublié.
Vous lutte dans les mains, mais vous
et nous aussi.
Ah bah nous non, parce que moi je me rappelle de Raon
qui l'avait piqué,
qui avait saoulé tout le monde à la rédac en me disant que c'était le futur et tout. Et puis bon bah. Voilà.
Tu refus. Hein.
Il est tellement le futur que Micromania n'en voulait pas, que les boutiques gueulaient dessus parce que le dématérialisé c'était pas une bonne idée. Elle était trop en avance.
Peut-être que le turfu dont
parlait Raon,
c'était le fait d'avoir du jeu des maths dans sa console. C'était peut-être plus ça que le système PSP Go en lui-même.
Tu sais, c'était cette époque où on s'enthousiasmait aussi pour eLive, pour ce genre de trucs dématérialisés,
oui, plus
rien. On est dans des univers cyberpunk, voilà.
Un punk cyber.
Et du coup, c'était Mimic qui nous en parlait à l'époque et qui nous racontait en fait, c'est un peu ses vacances marseillaises. Non mais c'est vrai, je déconne pas. Allez voir l'article. En fait, Mimic nous dit: profitant du soleil marseillais sous lequel je vis en ce moment, je suis allé faire un petit tour dans la plupart des boutiques. Et en fait, il s'est mis à chercher justement des PSP Go pour essayer de voir si la console était véritablement disponible. Et il se trouve que, comme vous le savez, pas vraiment. Finalement, les revendeurs, surtout spécialisés, n'étaient pas super joyeux à l'idée de vendre une console qui n'allait pas leur rapporter un copec après en jeu, puisqu'il n'y avait plus de lecteur UMD du tout sur la PSP Go. Il fallait uniquement télécharger ces jeux. Et Mimic avait fait un petit tour des revendeurs marseillais et demandait justement aux lecteurs aussi si eux l'avaient aperçu quelque part dans les rayons de leurs revendeurs spécialisés. Et un petit peu plus tard, du coup, en réponse en fait à cette sortie, on va dire, au moins en demi-teinte, la dernière info de ces il y a 10 ans sur Gameblog, ça fait justement le lien avec ça, puisque il y a eu une espèce de scandale. En tout cas, ça s'est su que les revendeurs spécialisés avaient plutôt tendance
à bouder
la sortie de la console. Et le PDG de Micromania s'était exprimé, avait un petit peu condamné justement la machine, et Georges Fornay lui avait répondu, et on l'avait cité, c'était une réponse qui avait été publiée sur Gamekult.
J'avais dit j'en veux Joe, non, c'est pas ça un truc comme
ça. Alors, c'était pas tout à fait ces mots, en tout cas, ça a été, on va dire, reformulé un petit peu. Okay. Il n'insultait pas les morts du clan d'en face, en l'occurrence. mais il s'étonnait justement de l'accueil et de l'absence de distribution. Et ça allait quand même un petit peu plus loin, puisqu'à un moment dans sa déclaration, il disait Micromania est passé à l'acte et certains magasins véhiculent un message négatif pour essayer de casser la machine. Je doute que cette position extrême soit supportée par l'ensemble des employés. Donc voilà, il y avait visiblement un torchon qui brûlait entre Micromania et Sony. Ouais. Et ce cher Georges Fornay concluait en disant, si vous trouvez la PSP Go, allez chez tous nos revendeurs habituels dans les boutiques Orange. Donc en gros, n'allez pas chez
Micromania.
Micromania. voilà, c'était un petit peu la polémique à l'époque. Et bon, bah, on sait ce qui est arrivé hein, à cette pauvre petite PSP Go dont la production s'est arrêtée en avril 2011, donc pas très longtemps après. Ouais. Et bah, j'ai cherché des chiffres de vente. Et bien, figurez-vous que je n'en ai pas trouvé, bizarrement. Donc,
c'est bizarre. Hein.
Généralement, on sait ce que ça veut dire implicitement quand on n'arrive pas à trouver des chiffres de vente officiels. Vous en tirerez les conclusions que vous voulez.
Exactement.
En tout cas, on a mangé la calotte de ses morts.
On sait qu'il y a une PSP Go chez Raon, en tout cas, c'est sûr.
Est-ce qu'il l'a encore, tu crois?
Bah oui, à mon avis, ouais. Moi, je l'ai pas retrouvé, en tout cas. Donc,
Est-ce que Raon continue de prédire l'avenir? C'est ça la vraie question.
Ouais. Prédit l'avenir du futur, même. Et bien, merci pour ces anecdotes toujours croustillantes d'il y a 10 ans sur Gameblog. Hein. On s'en paye une tranche à chaque fois. Ou pas, d'ailleurs.
Une tranche de quoi?
Une tranche de cake! Tiens, tu veux que je te dise un truc? On va passer au thème number one.
Ouais, ok. Mais menace pas.
Hein. Number one! Et tu sais ce que c'est que ce thème? Vous savez ce que c'est, les amis?
Eh bien, oui, tu l'as dit tout à l'heure.
Ce sera Ghost Recon Breakpoint. Pourquoi il ne fait pas l'unanimité?
Exactement. Mais en plus, c'est d'autant plus décevant que moi, j'avais bien aimé Wildlands, donc l'épisode précédent. Puisque ça fait partie de la même saga, même si le titre est clairement différent. Enfin, ils ont voulu changer. Ils l'ont pas appelé épisode 2, ils ont vraiment changé le nom, et ils ont changé aussi pas mal la formule, et c'est je pense aussi une des raisons pour lesquelles le jeu n'a pas eu rencontré le succès qu'il aurait pu avoir. J'ai été d'autant plus emballé qu'en plus le jeu on l'avait vu plusieurs fois, moi je l'avais vu notamment à la Gamescom et j'avais beaucoup apprécié ce que j'avais vu, j'avais participé au multijoueur, c'était assez joli comme prévu, ça déjà à l'époque quand on avait fait un podcast avec Julo, je crois que Julo l'avait vu aussi tourner. Et effectivement, le jeu était très joli. Enfin, il y avait quelque chose de vraiment. Il s'est fait un gros travail artistique et un gros travail technique. Et il se trouve qu'en fait, déjà, le jeu a subi un downgrade assez impressionnant entre les différentes versions qu'on a eu l'occasion de voir auparavant et la version définitive. Un downgrade que j'ai jamais vu, c'est-à-dire un downgrade qui touche aussi les animations, puisque les animations étaient très correctes. Moi, quand j'y avais joué à la Gamescom, donc c'était quand même uniquement il y a 3 mois. Et elles sont alors pas catastrophiques, mais elles ont vraiment de gros soucis à la sortie. On a un espèce de côté très robotique dans les mouvements, alors que c'est censé être une simulation militaire. Enfin voilà, ça fait hommage à Tom Clancy, donc c'est quelque chose qui est censé être très simu. Et ben du coup, on retrouve pas du coup ce truc-là. Et pire que tout, les animations sont moins bonnes que dans Wildlands, qui est sorti il y a 3 ans. Donc c'est quand même assez effrayant à ce niveau-là. Techniquement, vraiment purement techniquement au niveau des textures, bon ça reste très honnête, mais pareil, il y a un truc qui a été, je sais pas, qui a été charcuté, il y a beaucoup de popping au niveau des textures. Alors certes c'est un monde ouvert qui est vraiment assez vaste, mais il y a des choses qui passent vraiment pas. Quand on voit des arbres popper qui nous popent dessus, il y a vraiment clairement un souci. Bon après voilà, ça reste, c'est pas le plus gros défaut du jeu, hein, mais on comprend pas pourquoi déjà ça a eu lieu. Pourquoi il y a eu un downgrade comme ça, et surtout un truc aussi qui concerne des éléments qui ne touchent normalement pas les jeux vidéo, enfin les animations. J'ai jamais vu un downgrade de tous les jeux que j'ai touché, un downgrade sur les animations. J'ai vu sur les textures, sur les lumières, sur les ombres, ce que vous voulez, mais les animations c'est du jamais vu, et je comprends vraiment pas. Apparemment, des retours qui avaient été faits lors de la bêta, le jeu était peut-être un peu trop poil simu, peut-être un peu trop hardcore, je sais pas, je sais vraiment pas ce qui s'est passé.
Ouais, c'est justement la question que je voulais te poser, parce que moi j'ai vu un stream avec 4 joueurs et je trouvais que ça avait l'air quand même assez rigolo. C'est un peu c'est un peu G.I. Joe quoi, tu parles de ton équipe de 4 personnages et tu vas attaquer les bases ennemies. Donc j'entends bien l'aspect simulation qui a pu te décevoir, mais est-ce que tu penses que pour y jouer entre potes à 4 pour rigoler, c'est quand même recommandable?
Franchement, même comme ça, je sais pas, je vais revenir dessus. C'est qu'en gros, alors comme je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé Wildlands. Là déjà, à celui-ci, j'ai joué vraiment l'esprit ouvert et tout. J'étais vraiment, vraiment concentré dessus. Et au bout de 2 heures, 2 heures et demie, toutes les personnes avec qui je jouais m'ont dit ah c'est bizarre, il y a le jeu me saoule déjà. Alors mes potes ont commencé à me quitter les uns après les autres. J'ai commencé à me poser des sérieuses questions, puisqu'on avait quand même beaucoup apprécié Wildland, donc on se dit bon, il y a un souci, vraiment il y a un truc qui va pas, c'est pas que moi, déjà les gens autour c'est déjà le cas.
Il y a un aspect un peu n'importe quoi, moi, qui me évoquait un peu de GTA Online, tu vois, tu prends des avions, des hélicos, des bateaux, des jeeps.
Un petit côté de Just Cause.
Quelque part.
Mais alors, juste pour répondre à Tiger par rapport aux animations et à la promesse, le truc, c'est qu'au départ, quand ils l'ont annoncé, c'était vraiment axé sur Nomad est seul au monde. C'est pas une opération comme les autres, il se retrouve vraiment parachuté un peu de manière catastrophique quelque part, et il va devoir se refaire un armement, un petit peu de la flaque de boue dans laquelle il est tombé. Renaître de ses cendres et se reconstituer quelque chose. Donc normalement, tu partais justement de très très loin et il y avait cette dimension survie et.
Que l'histoire, dès les premières minutes, te le met bien en tête. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un spoil, mais en gros, on survole. Un navire de la Navy a été coulé. Donc les troupes US viennent enquêter là-dessus. Ils survolent en reconnaissance l'île et les hélicoptères sont abattus les uns après les autres par des drones, et donc on se retrouve en fait avec notre équipe, enfin vraiment tout seul ou alors en coop, donc avec trois autres joueurs avec nous, et c'est vraiment comme tu disais Thomas, l'esprit c'était seul contre tous. Le problème c'est que cet esprit là au bout de 20 minutes il te le défonce, il te le casse complètement, puisqu'en fait on se retrouve pour récupérer l'émission dans un hub où on va croiser tous les autres joueurs. Donc en fait on va se retrouver dans une vraie étape faite à neuneux avec 50 joueurs qui tournent dans tous les sens, qui te cassent totalement l'immersion, et on comprend vraiment pas ce qui se passe, quoi. Ça n'a aucun sens. En plus c'est une véritable usine à gaz en termes de menu, c'est-à-dire qu'en fait tu prends des missions à des mecs. Alors dans Wildland en fait quand tu prends une mission, tous les gens qui jouent dans ton groupe voyaient la cinématique. Normal. Ils voient la cinématique en même temps que toi, voilà, si tu la passes, eux ils peuvent continuer de la voir, mais voilà, ça restait une certaine logique. Là, il y a des bugs rencontrés, c'est-à-dire que moi, des fois, je lançais une cinématique, mes potes la voyaient pas, ou inversement, ils lançaient une cinématique en parlant à un perso, et moi, je la voyais pas.
Oui, j'ai vu ça sur le stream en question, et d'ailleurs, il y avait aussi des bugs assez rigolos. Quand à un moment, tous les personnages étaient dans l'hélicoptère, il y a un des personnages qui s'est retrouvé genre 20 mètres devant, dans les airs, assis dans le vide. Enfin,
c'est
il avait l'air de dire
pas
mal
grave,
de bugs.
Ça arrive.
C'est rigolo. Mais
vous êtes en train de dire que c'est un jeu Ubisoft, en fait.
Oh, tout de suite.
Soulève le lien.
Déjà, moi, l'immersion, ça m'a sorti totalement. Ça m'a sorti totalement avec cette histoire de hub. Honnêtement, ça casse le rythme, parce qu'en fait, tu fais une mission, t'as une histoire qui se met en place déjà péniblement. Tu te dis cette mission, elle est plutôt cool. Je l'ai finie. J'ai passé à la suivante. Le truc, c'est qu'en fait, c'est comme une coupure pub dans un milieu d'un film.
Ouais, ça a vraiment pas d'utilité pratique de revenir dans le hub à chaque fois.
Non, parce qu'en fait, le hub, le seul truc utile qu'il y a, c'est en fait de pouvoir accéder au multi, faire des missions PVP, enfin pas des missions PVP, mais faire des matchs PVP.
En fait, tu discutes avec le mec à la voix de John Marston.
C'est ça.
Tu veux dire que ça force à faire vraiment des.
Faire des allers-retours constants dans ce hub, et en plus ce hub c'est le seul endroit du jeu où en fait pour passer de la transition en fait du monde ouvert jusqu'au hub, t'as quelques secondes qui viennent te couper un micro chargement, ce qui fait vraiment que c'est vraiment ennuyeux, parce que le mec ils ont symbolisé ça par une sorte de rideau que tu dois ouvrir machin, et c'est vraiment mais tellement chiant à faire, et comme je te dis, tu te retrouves dans un hub avec des mecs qui courent dans tous les sens, tu perds totalement toutes les notions de survie qu'il y avait dans l'histoire. Et ça casse en fait tout le rythme de l'histoire, quoi. Je comprends pas ce choix qui a été fait.
Et puis ça fragmente ton exploration aussi.
Ça fragmente ton exploration totalement. T'as des magasins, alors c'est pareil, dans Wildland, les armes tu les lootais, il y avait cet esprit vraiment très sympa. Là tu peux continuer évidemment à looter, mais tu te retrouves dans l'hub où t'as des magasins où les mecs, c'est des véritables marchands d'armes, ils ont une cinquantaine d'armes sur eux. Enfin, je sais pas, ça gâche l'aspect survie. Pour revenir sur les bugs dont tu parlais tout à l'heure, moi j'ai d'autres bugs, c'est qu'en plus, pour faire des missions en général, tu vas dans un point A, un point B pour aller tuer des gens, en fait c'est tuer, tuer, tuer. Alors que dans Wildland, t'avais des trucs, tu devais récupérer des cargaisons, arrêter un camion à un endroit spécifique, ensuite voler le camion, le ramener. Alors certes, ça c'était pas foufou en termes de.
Oui, mais ça offre de la variété, quoi.
Une certaine variété. Et là, honnêtement, à part tuer, j'ai vraiment quasiment rien fait d'autre. En plus de ça, quand tu vas à un point A, un point B, c'est, la map est immense, tu fais ça en véhicule, les véhicules sont buggés et les véhicules, enfin la conduite est exécrable et tu te retrouves coincé dans le décor. Moi plusieurs fois j'étais à moto ou en voiture, mon pote était derrière moi soit en moto soit en voiture et il se retrouvait bloqué dans le décor, c'est à dire que moi pour une raison quelconque la voiture fait une pirouette, alors faut voir aussi la physique du jeu complètement claquée, t'as la moto qui part dans tous les sens, qui fait une espèce de 380 dans les airs, mon pote bah du coup sort de la moto, il se retrouve coincé dans un flanc de mur ou dans une montagne et il peut plus bouger. Le seul moyen de pouvoir bouger c'est de déconnecter ou alors que je le tue.
Ah ouais.
Donc je te ah raconte oui. pas le merdier que ça peut être.
Un truc qui est cool par contre c'est que j'ai vu que tu pouvais mettre des pains de C4 sur un hélico, donc tu peux faire ouais. monter tous tes copains dans l'hélico, te barrer en parachute et faire sauter l'hélicoptère.
Salut.
Ouais, tu peux troller, tu peux troller.
Okay. C'est un truc rigolo.
Tu peux troller. Au-delà de ça, voilà. Déjà ça casse déjà pas mal l'immersion et par rapport à Island, on sent vraiment qu'il y a un gros Wildlands, il y a vraiment un gros souci qui a été fait. Qui a été, on sent qu'il y a un manque de développement en fait, qu'il n'y a pas eu assez de temps pour faire ce jeu. Ça se ressent aussi dans les finitions, puisque bah, au-delà des bugs, il y a aussi des problèmes de doublage. Puisque des fois, en fait, il y a. J'ai jamais vu ça dans un jeu vidéo.
Au niveau de la synchro, tu veux dire
Non, la synchro, ça va encore, mais il y a des trucs complètement ahurissants, c'est-à-dire que tu as des doubleurs qui lisent des didascalies. Alors, à un moment, tu as un mec qui dit. il devait avoir sur sa fiche, alors là tu prends une respiration, le mec il dit respire, enfin, il lit les didascalies en fait.
C'est un gros problème.
C'est assez hallucinant.
Ah, c'est ce que tu mettais dans ton test d'ailleurs.
Ouais, et en plus ces trucs là avaient été vachement remontés lors de la bêta. Quand tu fais une bêta en général, c'est pour remonter les bugs et en général ils sont résolus pour le sens. Oui. Ça n'a aucun intérêt de faire une bêta.
C'est ça.
Et là le problème c'est qu'il y a certains bugs qui sont restés à ce niveau là.
Ça a tous les atours d'un bon nanar en fait, parce que mauvais doublage, des bugs, ça donne presque envie en fait.
Le jeu est assez nanardesque, et pareil aussi au niveau des problèmes de micro. Alors ça peut arriver en podcast, hein, des fois tu as le micro un peu trop de la figure, du coup le son est un peu mauvais.
Ah ouais, il y a des soucis comme ça
de prise de son. Quand t'as un triple A et que le jeu est vendu 60€ ou 70€ et qu'il y a des millions de budget derrière, tu te poses vraiment des questions, comment des trucs ont pu rester comme ça, enfin comment personne n'a checké derrière pour savoir qu'il y avait un problème quoi. Donc voilà, ça c'était pour les points négatifs, et déjà c'est vraiment pas mal de points négatifs qui vraiment cassent l'immersion. Ouais. Et ouais, oui, oui. Mais ça c'est là je parlais vraiment au niveau des bugs. Et voilà, le dernier problème, comme le souligne ce très cher Thomas, c'est les microtransactions.
C'est très cher Thomas.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a encore un an, il y a eu tout un pataquès sur les microtransactions, et tous les développeurs et tous les éditeurs se sont mis à flipper, à se dire ah faut absolument pas faire pareil. Ouais. Et là que fait Ubisoft ? Ils nous sortent un jeu bourré de microtransactions où on a, quand je dis bourré, c'est qu'il y a au moins 200 ou 300 articles achetables en microtransactions.
Alors mais où tu les achètes ? Dans le hub ?
Alors tu les achètes via le menu, en fait t'as même pas besoin d'aller dans un hub.
C'est accessible directement, ouais. Tu mets pause et...
Exactement, tu mets pause
et tu peux prendre ce que tu veux.
Et tu vas dans le truc.
Tu vas quand même pas compliquer l'achat, faut que ce soit facile.
Tu peux acheter des armes, tu peux acheter des skins. Et le problème c'est que du coup c'est pas uniquement des skins. Ouais, des bagnoles de course aussi. C'est pas uniquement des skins, le problème c'est que c'est aussi des armes. C'est-à-dire que, en fait, ton personnage en solo, tu l'utilises aussi en multijoueur. Et le problème, c'est qu'un mec qui vient de commencer, s'il veut, il peut dépenser, je sais pas, 20 balles. Il
achète, oui, voilà, c'est pas que cosmétique, là, ouais, ça sert vraiment.
Il achète un fusil d'assaut, je sais pas, un fusil à lunettes, etc., ouais. Avec des super composants dessus.
Et même s'il est mauvais, il défonce tout le monde, quoi.
Et, même s'il est mauvais, ouais, en tout cas, il a un
avantage. S'il est moyen, ça va.
Voilà, en tout cas, il a un avantage, c'est clair. Alors, certes, ses armes sont quand même lootables, donc tu peux quand même les récupérer gratuitement, oui. dans le jeu. Mais, pour deux personnes qui commencent, s'il y en a un qui a un portefeuille plus garni,
c'est les problématiques habituelles, c'est le problème avec Battlefront 2, c'est un déséquilibre pour le multijoueur entre.
Il y a vraiment un déséquilibre par rapport à ça, et en plus de ça, c'est que c'est vraiment. Il y en a partout, quoi. Et en plus, ça t'ampute une partie du jeu, puisque dans le premier jeu, t'avais un système de customisation qui était assez important. C'est-à-dire quand tu crées ton personnage, dès le début du jeu, t'avais plein de costumes différents, des coupes. De... Alors là, on le voit. Tu peux choisir pas mal de trucs, mais t'avais vraiment, tu changeais les casques, etc., la couleur des vêtements et tout. Et là, dès le début du jeu, en fait, t'as que genre deux éléments débloqués, et tout le reste se débloque soit en loot. Il y en a peut-être, un tiers en loot, et les deux autres tiers, ce sont uniquement par des microtransactions. Donc voilà, c'est vraiment très problématique par rapport à ça, c'est qu'il y a vraiment un truc qui est moins bien, enfin il y a plein d'éléments qui sont moins bien que le premier, et pour moi, pour une suite, c'est inacceptable. Après, le jeu a quand même aussi des bons points, heureusement, un multijoueur notamment qui est extrêmement intéressant, ça pareil, hein, c'est pas... c'est pas un multijoueur qui est hors du commun, mais c'est sympathique parce que c'est en fait le multi qui fait ressortir le véritable aspect survie et tactique. Puisqu'en fait, comme la tactique dans le solo marche pas, puisque les ennemis sont aux fraises et que tu peux en fait tous les déglinguer les uns après les autres à la queue leu-leu.
Mais c'est pas fait exprès ça pour t'obliger à jouer en multi quoi qu'il arrive.
Bah non, parce que finalement tu retrouves pas la même chose quoi. Le multi c'est vraiment du 4 contre 4. Et vraiment les trucs où, avec une immense map et tout, tu trouves vraiment ça que dans le solo, et donc tu retrouves pas les mêmes éléments en fait. Et le pire de tout, c'est qu'en fait l'IA est tellement pétée que des fois, soit les mecs ils sont à 5 mètres de toi et ils te voient pas alors que t'es en terrain découvert, soit ils sont à 150 mètres et ils te repèrent derrière un arbre quoi. C'est totalement hallucinant. Donc ça te casse en fait le côté tactique.
C'est très très mal réglé quoi.
Ouais, ça te casse le côté tactique. Alors que justement, le jeu en multi, tu reconnais tout l'intérêt du gameplay qui a été fait. C'est-à-dire que le jeu en coopération qui du coup prend un vrai sens puisque t'as une équipe en face, c'est pas des IA donc forcément. Ils vont réagir de manière humaine, ils vont avoir des meilleurs réflexes, etc. Et là, tu vas avoir une vraie tactique qui va se mettre en place. Alors, je sais pas, il y a un mec qui va partir en reconnaissance à l'ouest, l'autre à l'ouest, à l'est, etc. T'as un mec qui reste un peu hors trait avec les munitions, t'as celui qui est axé médecin qui va pouvoir faire des choses et tout. T'as vraiment une vraie tactique qui se met en place, surtout qu'il y a des bonnes choses aussi. T'as un système de classe qui a été rajouté au jeu. T'as le médecin, si je vous dis les noms des classes, ça va vous parler parce qu'ils ont. Ils ont donné des noms spécifiques.
T'as un tank, t'as un sniper.
Voilà, en gros, t'as ça, t'as sniper, tank, DPS et médecin. Et ça marche vraiment bien, c'est sympa. Il y en a que 4, mais elles fonctionnent bien ensemble. Quand t'es en multi, c'est bien que chacun des joueurs, vu que c'est 4 contre 4, choisissent une classe différente pour vraiment que ça soit une équipe qui soit complète.
T'es plus obligé dans celui-là, justement. Tu peux faire une équipe complètement déséquilibrée avec non, mais techniquement, tu peux. Là où avant, t'étais un peu obligé d'équilibrer quand même ta constitution.
Tu peux, mais du coup, ça reste quand même mieux en termes de fun d'avoir, de tactique et d'intelligence du truc,
De répartir
une équipe,
les rôles,
qui soit vraiment bien structurée par rapport à ça. Donc le multi est très sympa. Pareil, le solo, il n'y a pas que tout acheté. Il y a notamment le grand méchant incarné par John Bernthal qui est vraiment excellent, fidèle à lui-même. Hein, il fait du Punisher. D'ailleurs, je me demande si c'est pas ce qu'ils l'ont demandé. Je lui dis, fais du Punisher, c'est parfait. Parce que c'est exactement le genre de perso qu'il incarne. Ça marche hyper bien. Surtout qu'en plus, il y a un beau travail qui a été fait sur les animations faciales, pour le coup, dans les dialogues, au niveau des yeux et tout. C'est vraiment, il y a un truc qui est très réaliste, très crédible là-dessus. Pareil, artistiquement, c'est plutôt sympa. Ils ont essayé de faire une cohérence sur cette île fictive. Île fictive qui sentait située au Pacifique, notamment, si on croit au truc...
À Aurora.
Ouais, Aurora, mais qui sont situés un peu vers la Nouvelle-Zélande, à 100 ou 150 km de la Nouvelle-Zélande, quelque chose comme ça. C'est pareil, il y a un truc qui est moins fun que la Bolivie du premier, c'est moins immersif, c'est moins viscéral. T'as quelque chose qui... On sent que les artistes ont fait de gros efforts parce qu'ils ont voulu apporter une cohérence, c'est-à-dire que tu passes pas d'un marécage à une forêt enneigée, tu vois, enfin à une montagne enneigée. T'as quand même une certaine cohérence qui a été faite, mais d'ailleurs on le voit là, la montagne enneigée au loin, il y a quelque chose qui est de cohérent qui a été fait au niveau géographique, mais ça pète moins, c'est moins intuitif, c'est moins fun.
C'est le même studio qui l'a développé celui-là
Que Wildlands. Peut-être connerie, il me semble que oui, mais.
J'avoue que j'ai un doute, mais
ouais, je confirme. Mais ouais, donc il y a un souci par rapport à ça, c'est moins fun que le premier au niveau des environnements. C'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage qu'ils aient fait ça. La map est dans les bons points, c'est qu'elle est plus grande, mais le problème c'est qu'aussi elle est plus vide. Dans le premier, tu rencontrais pas mal de civils, de voitures, etc. T'as vraiment une vraie vie qui était autour de toi, et là cette vie là tu la retrouves un peu moins. Alors certes c'est le scénario qui veut ça, mais je sais pas, ça manque de quelque chose, et on sent que le jeu aurait eu besoin de 6 bons mois de développement en plus pour qu'il puisse gommer la plupart de ses défauts, quoi. Parce qu'en plus il y a des défauts vraiment, par exemple les dialogues, les bugs, etc. Ça aurait pu être clairement résolu, enfin c'est en quelques mois ça aurait pu être fait, donc je sais pas quoi vous dire de plus par rapport à ça. Je peux pas conseiller le jeu dans l'état actuel. Je pense qu'il peut être vraiment très fun dans un an, avec des DLC en plus, bien résolu, etc. Mais pour l'instant je peux pas vraiment vous le conseiller. J'ai mis la note de 6, et honnêtement il y aurait eu des demi-points, j'aurais mis 5,5. Puisque c'est vraiment entre 5 et 6 quoi. C'est difficile de trancher. voilà ce que je pouvais vous dire dessus, mais honnêtement, moi je vous conseille vraiment d'attendre.
On te sent chafouin.
Ouais, je vous conseille vraiment d'attendre.
Par contre, juste un truc sur la microtransaction, ils sont revenus en arrière.
Ouais. Ils sont revenus en arrière, mais
il faut quand même le préciser.
Oui, ils sont quand même revenus en arrière, mais il y a quand même.
Ils ont quand même laissé certains trucs, mais ils ont enlevé des choses.
Ils ont surtout ils ont mis en pause. Attention, ils ont dit qu'ils mettaient en pause, donc ils vont.
Et ça a été effectif tout de suite ou pas?
Ouais, normalement c'est.
Quand ils l'ont annoncé, c'était effectif.
La dernière mise à jour, ça a été fait, et je crois qu'ils vont encore continuer à corriger ça. Mais non, c'est certes ça a été amélioré, mais ça reste quand même le gros du sujet, et tu peux pas l'effacer, le mettre sous le tapis, quoi, parce que c'est quand même voilà.
Alors, c'est pas mal quelque part, parce que ça montre quand même qu'il y a des limites que les joueurs sont pas prêts a priori à accepter. Après, faudra voir si le jeu se vend moins bien que Wildlands, mais c'est comme Electronic Arts il y a 2 ans, c'est bien de fixer des limites par moment, que les services marketing se rendent compte que
quand c'est too much,
non,
c'est too much,
tu peux pas vider les joueurs de leur sang comme ça non plus sans qu'il se passe un truc à un moment donné. Je trouve ça plutôt sain pour le qu'il y ait un espèce de shitstorm autour de ça.
Après, on peut pas leur en vouloir d'essayer de toute façon.
On peut leur en vouloir d'essayer d'aller trop loin.
D'aller trop loin, ouais, c'est sûr.
Là,
c'est,
en fait, ça aurait été uniquement les skins dès le début, ça passerait quand même. Mais voilà, c'est le problème, c'est tout. Il y en a eu trop, il y a eu des boosters, des trucs pour améliorer l'XP, etc.
Oui, quand c'est cosmétique, c'est pas un problème, voilà. C'est juste ça casse l'équilibre du jeu, quoi.
C'est ça, ouais.
Parce que même dans Fortnite, c'est pas ça, quoi. Je veux dire, tout est que cosmétique et ça change strictement rien au jeu que tu dépenses 1000 euros ou 5 centimes.
Ben en plus,
Mario Kart.
Pour finir avec ce point breakpoint, le problème c'est qu'aussi, il y a apparemment de charisme au jeu. Dans le sens, c'est l'impression que c'est un gros mélange entre The Division et je sais
pas.
C'est
ça que ça fait penser à Just Cause. Hein. Moi, quand je vois tous les vidéos comme ça, j'ai l'impression que c'est un Just Cause
guy. C'est Joe.
Ouais. Mais en tout cas, ça reste un jeu, je sais pas, qui a apparemment de visage. En fait, c'est un peu une soupe Ubisoft, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont pris tout leur jeu, ils l'ont mélangé.
Non, tu veux dire un fourre-tout.
Ouais, un fourre-tout. Ouais.
Un fourre-tout, ils ont mis tout leur truc. En même temps, quand tu vois le nombre de studios qui ont bossé dessus, il y en a quand même un paquet. Donc, c'est bien Ubisoft Paris, mais il y a Ubisoft Bucarest, Montpellier, Bordeaux, Odessa, Kiev, Belgrade, Milan.
Comme toute leur prod maintenant.
Oui, c'est sûr. Mais bon, il y a quand même pas mal de studios qui ont bossé dessus. En général, il n'y en a pas forcément toujours autant, mais.
Le lead
c'est peut-être pour ça aussi que ça fait pas qu'il n'y a pas un sens à tout, quoi.
Ouais, mais je sais pas, par exemple leur dernier AC, il avait une certaine patte, tu vois. Il avait un truc, quoi, tu pouvais le reconnaître, alors que là honnêtement j'allais dire
The Division 2.
La division numéro 2,
ouais, justement, ça
la première division potentielle aussi.
Ils ont voulu trop, en fait, rentrer au pied de biche des éléments de The Division qui marchaient bien dans le jeu mais qui là fonctionnent pas, voilà.
Et par contre, tu n'as pas parlé d'un personnage d'un vrai être humain,
John Bertal.
Mais si tu dormais, il en parlait.
Ah, si, j'en ai parlé, ouais.
C'était je devais sûrement dormir.
Il était bien.
Il est bien dans le jeu.
Parce que j'étais occupé à faire
un des gros points positifs justement de l'histoire, c'est qu'en fait, avec son physique, il porte à bout de bras l'histoire, quoi. Honnêtement, c'est il porte sur son dos, en fait, le scénario du truc, parce que sans lui, ça aurait encore moins de sens, quoi.
Donc c'est une bonne recrue, en fait, qu'ils ont fait là-dessus.
Oui, bah clairement. De toute façon, il ne faut pas se tromper avec lui. Il est bankable en ce moment.
Peut-être que le budget y est passé, du coup.
Ah ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ils ont payé John Bernthal et puis ils ont fait les animations, les mecs, désolé.
Bah non, mais c'était non plus dommage, quoi, parce qu'avec un personnage comme ça, ils auraient pu faire vraiment un truc sympa, quoi. Enfin. D'ailleurs, c'est comme Far Cry. Hein. Far Cry, très bon méchant à chaque fois, et les derniers, un peu cet aspect.
Enfin, le tout dernier, non, celui d'avant, le 5.
Ouais.
Le 5, il a un super méchant, mais New Dawn, non.
Attends, ah oui, je l'ai pas fait celui-là. Non, quand j'ai le dernier, c'était les deux derniers, en fait. Celui qui était au Tibet et.
Le 4,
c'est
le moyen.
Ouais.
Moyen.
Bah, ils ont quand même des méchants qui sont reconnaissables, etc. Ça marchait plutôt bien. Et là, c'est un peu le même truc, quoi. C'est qu'ils ont un bon méchant, mais ce qu'il y a autour de l'histoire, c'est pas ouf.
Bon, d'accord, parfait. Bah, écoutez,
ça donne super envie, en tout cas. Hein. Franchement, tu m'as remonté le moral, là.
Il a eu 6, il a pas eu 2 non plus, quoi. Donc, après, ça a essayé si c'est,
bon, c'est comme si, hein.
Si c'est votre cam ou pas, quoi. Donc, c'est comme si ça. Voilà. Par contre, le premier, le Wildlands, visiblement, il y avait Ubisoft Paris, mais après, je sais pas si.
Mais après, tu sais, c'est les autres studios, ça peut être lui, il a modélisé la chaise.
Enfin, t'externalises pas pour 3 trucs et demi.
Pourquoi pas.
Non, en plus, il pointe une chaise qui n'est pas là.
En plus,
le faire remarquer.
C'est une chaise invisible.
Non, j'ai montré Poufy, en
fait. Ah, Poufy, la chaise. Ok, on va taper la chaise, j'entends Poufy. Et bien voilà, ce qu'on pouvait dire sur Ghost Recon Breakpoint, vous l'avez en test sur le site. Et donc, il a eu 6 sur 10. Et il sort sur PC, PS4, Xbox One.
Il est sorti.
Il est sorti, même.
Ouais. Et il est sorti, pardon. Ouais. Et un jour sur Switch. Non, je déconne. On va passer au thème numéro 2, chers Aminches. Et là, je m'adresse directement à
c'est
Tiger.
C'est le tunnel. C'est mon tunnel.
Exactement.
Vous voulez qu'on commence par quoi ?
De tous les tests que tu as fait cette semaine, en fait.
On a trois titres.
On a trois titres. On va commencer par Train 4.
Ouais, ok.
Train number 4.
Train 4, bah, on va faire un petit peu de contexte pour ceux qui ne connaîtraient
ouais,
pas la série. Train, c'est donc une série développée par un studio finlandais qui s'appelle Frozen Byte. Et il y a une paire d'années maintenant, alors je sais plus, c'est peut-être 2010, 2011. Enfin, ça fait un moment qu'était sorti le premier jeu Train, un jeu indépendant qui avait fait sensation à l'époque. Ce qui répondait à une mécanique qui rappellera peut-être celle de The Lost Viking pour ceux qui...
Un de mes chefs-d'œuvre absolus.
Un exactement. Super jeu. Ouais. Qui proposait donc d'incarner un trio de héros aux compétences complémentaires. En l'occurrence, dans Train, on a un magicien, Amadeus, qui a comme capacité d'invoquer à loisir des boîtes et de faire léviter ces boîtes et aussi des objets. On a aussi, je ne sais plus comment elle s'appelle, Zora, ou je ne sais plus
Zora,
exactement. La
2009 Train.
2009, tu vois. La voleuse qui, elle, a la capacité de se hisser sur des endroits inaccessibles normalement grâce à son grappin et puis avec son arc, voilà, elle peut aussi atteindre des ennemis à distance. Et le chevalier, dont j'ai oublié le nom, un chevalier dodu en armure qui, lui, a donc cette capacité de pouvoir casser plein de choses avec son épée, mais pas seulement, parce qu'avec son bouclier, il va pouvoir, par exemple, refléter un halo lumineux ou donner une nouvelle direction à un cours d'eau, tout ça, pour évidemment résoudre les différents mécanismes qu'on va trouver sur notre chemin dans Train. Et si le jeu avait fait sensation à l'époque, c'est déjà parce que, comme vous pouvez le voir, la direction artistique est plutôt très soignée. C'était le cas aussi des précédents épisodes. Il y a vraiment une ambiance enchanteresse, quoi, qui...
Ah, c'est super beau. Enfin,
ouais,
j'adore,
voilà,
en tout
qu'on
cas,
retrouve
le style.
Dans ces jeux. Et puis globalement, il y a plutôt une ambiance assez légère qui est assez cool. Mmh. Surtout que de là, dans Train 4, il y a une VF intégrale. Donc on a les petites remarques du sorcier, de la voleuse, etc., sans que ça soit jamais lourd. Voilà, ça permet juste un peu de donner un peu de corps à tous ces personnages.
C'est Pontius le chevalier.
Pontius, voilà, le chevalier. Et donc il y a eu trois épisodes de Train jusqu'à maintenant. Le 2, de la vie générale, était vraiment celui le plus réussi. Avec le 3, Frozen Byte avait essayé d'étoffer un peu la formule en proposant de la 3D. Là on le voit, hein, ça se passe qu'en 2,5 2D, c'est ouais, toujours comme ça dans le jeu. Ça avait été reçu de manière assez mitigée, cette innovation. Donc pour le 4, ils se sont pas trop compliqués la vie, du coup ils sont revenus aux bases du 2 qui avait fait évidemment le succès de la série. Il faut savoir aussi que, alors je suis pas dans le secret de ce qui se passe en Finlande dans ce studio, mais Train 4 a bénéficié en fait d'une enveloppe de la part d'un organisme de création de jeux vidéo européen, une enveloppe de 150 000 euros. Donc je sais pas si après le 3 un peu mitigé, même s'il a eu de bonnes notes, le Train 4 était forcément en projet chez Frozen Byte, mais en tout cas ça l'a poussé, et c'est une bonne chose parce que la formule est toujours aussi efficace, en particulier à plusieurs. On peut y jouer jusqu'à 4. Alors il y a que 3 héros, mais de toute façon on switch à volonté,
ouais, c'est ça,
entre les différents personnages selon les situations proposées. Donc évidemment à plusieurs c'est génial, parce que quand on va incarner le mage, on va faire léviter un truc, il va falloir que notre copine, notre copain utilise l'arc pour atteindre une zone, etc. Donc ça demande beaucoup de réflexion. En plus, dans l'équilibre entre action et réflexion, moi c'est ce que je trouve très agréable dans Train, c'est que c'est vraiment la réflexion qui l'emporte sur l'action. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de jouer avec quelqu'un qui est habitué forcément aux jeux vidéo. Vous pouvez vous amuser rapidement parce que ça mise d'abord sur la résolution de tous ces petits mécanismes. En plus de ça, il y a un rythme qui est assez bien soutenu, qui est soutenu, et une vraie sens du game design, c'est-à-dire que on enchaîne comme ça ces petits tableaux dans les niveaux, toujours en s'amusant. Évidemment, si le gameplay est de retour en 2,5D intégral, il y a quand même quelques petites nouveautés comme les flèches élémentaires qu'on retrouve avec la voleuse, qui permet par exemple avec les flèches de glace de friser certaines plateformes, enfin voilà, ce genre de choses. Le magicien peut aussi se téléporter, il y a une charge avec le chevalier qui permet en fait de le lancer sur des objets très lourds afin de détruire des parois qui sont un peu fragiles. Donc pour ceux qui sont novices, qui découvriraient Trine avec cet épisode, bah, c'est une super porte d'accès pour un jeu qui est vraiment très sympa. En plus, faut le dire, hein, il est proposé à un petit prix, je crois que c'est une trentaine d'euros. Donc,
si il y a une compile avec les trois premiers. Exactement. En plus, enfin, normalement tout est bon pour jouer au Kite Trine d'affilée.
Il y a en effet une compile qui sort un peu sur toutes les plateformes, qui réunit les quatre jeux. Du coup, donc si vous y êtes jamais essayé, vous avez un... Ah oui, parce que il y a de la coop donc multi, local et en ligne. Donc si vous avez envie d'un jeu où vous pouvez tous être sur le canapé, où on s'amuse, c'est parfait. Après, le seul bémol, c'est ce que je relevais dans le test, c'est que si vraiment vous êtes un fan de la série, alors peut-être que vous serez heureux justement de ce retour un petit peu aux sources à Trine 2, mais peut-être aussi que vous vous sentirez peut-être lésé justement par le manque de nouveautés et aussi par la relative facilité du challenge. Moi, ça me pose pas de problème, surtout quand on joue en coop, faut mieux que ça soit pas trop compliqué pour que chacun s'amuse, et malgré tout, ça reste malin, soutenu, c'est joli, c'est dans une bonne ambiance, donc voilà, je crois que je lui ai mis 8, ce qui équivaut à très bon comme mention.
Exactement.
Voilà. Oui, très bon.
Tout à fait. Bon, en tout cas, ouais, c'est toujours aussi beau et intéressant, et on vous le conseille sans aucun problème. Le deuxième test... que ouais. Tu as fait cette semaine d'ailleurs, c'était Neo Cab,
ouais,
le
tout
nouveau
à
taxi.
Fait. Alors là, c'est un univers assez différent, mais toujours un jeu indépendant sur lequel on peut jouer donc sur PC, mais aussi sur plateforme Apple, les plateformes iOS avec l'Apple Arcade. C'est un des jeux qui inaugure l'Apple Arcade et normalement sur Switch.
Oui, mais alors c'est vrai qu'on a essayé, on a eu un code de la part des développeurs sur Switch. C'est sur ça que normalement Tiger aurait dû faire
exactement.
Son test. Et en fait, oui, et bah, quand on l'a voulu rentrer sur la Switch, bah, visiblement c'est un problème qui concernait les codes qui étaient donnés par rapport à l'eShop français, spécifiquement français, qui fait qu'on n'a pas pu l'avoir sur Switch. Je verrai essayer encore à peu près tous les jours pour voir si je peux l'activer, mais c'est vrai que du coup tu l'as testé sur ton ordinateur.
Ouais, mais ça serait vraiment dommage qu'il soit pas accessible rapidement sur Switch pour un problème technique et tout, parce que moi ça a vraiment été un énorme coup de cœur, ce jeu. Je l'attendais pas, ça a été une surprise quand vous m'avez proposé de faire le test, et ça a été une très bonne surprise. Alors pour vous donner un peu le contexte, dans Neo Cab donc on incarne Lina, qui est donc une conductrice pour une société qui est un peu comme Uber, si vous voulez, hein.
C'est
on
une chauffeuse. Chauffeur.
Bah, tu sais que je me suis beaucoup posé la question, et visiblement, ouais, c'est chauffeur-eux, féminin.
D'accord,
ouais. Et donc, elle est chauffeur de VTC, et elle arrive dans cette ville donc fictive, Los Horos, qui fait évidemment penser à Los Angeles. On est dans un futur d'anticipation. Alors, je sais plus si la date est donnée exacte, mais on peut imaginer que c'est pas non plus tellement loin, peut-être une vingtaine maximum d'années dans le futur, en tout cas par rapport aux thématiques traitées. Et donc on arrive dans Los Horos avec Lina dans le but de rencontrer, de retrouver une amie, Savi, qu'on avait quittée trois ans avant dans d'assez mauvais termes. Ce qu'on nous fait comprendre dès le début entre la discussion avec Savi et Lina. Et très vite, Savi va envoyer quelques messages à Lina, un peu inquiétant, etc. Je veux pas trop vous en dévoiler parce que l'expérience est assez courte. Vous pouvez clore le jeu en 4-5 heures, il peut être terminé, mais... tout tient sur l'écriture de jeu, sur l'écriture des personnages. Donc pas trop en dévoiler, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans Neo Cab, on a évidemment à chaque fois de nouveaux passagers, et le niveau d'écriture de ces passagers est juste excellent. L'adaptation française, parce que là vous voyez les textes en anglais, mais tout ça c'est adapté en français dans une adaptation qui est vraiment exemplaire, et chaque personnage est intéressant par rapport aux discussions qu'il va établir avec Lina. Alors comme je le disais dans l'intro, que ça soit sur l'estime de soi, sur la physique quantique, sur justement l'ubérisation, sur le mensonge, sur la techno-berlinoise, sur voilà, enfin il y a plein de thématiques, et en tout cas on ressort à chaque fois de ces conversations avec la sensation d'avoir vraiment partagé quelque chose d'intime et de comment dire, de consistant, quoi.
Intéressant.
De se dire, une fois le jeu terminé, waouh, il y a plein d'engrenages voilà, ouais, qui ont été mis en route en se disant mais oui, ça c'est intéressant et
mais
tout.
Là tu t'achètes 52 bouquins sur toutes les conversations.
Comme Bill Gates, ouais. Et la thématique principale qui en tournait au cap, donc vu que le jeu a cette idée brillante de proposer donc un futur d'anticipation, même cyberpunk, hein, on trouve des personnages dans des armures un peu bizarres, un personnage qui a un bras robotique et tout, etc. Et bien évidemment, ça interroge des questions contemporaines et en particulier l'ubérisation de la société et l'opposition qu'il peut y avoir entre les idéaux de chacun et le pragmatisme de la réalité. Pour vous donner un petit exemple, Lina, en fait, avant, elle travaillait pour Capra. C'est la méga corporation, vous pouvez l'appeler Google, Facebook, voulez, Amazon, c'est la méga corporation qui régit tout dans cette Californie fictive. Et Lina, donc, elle fait des courses toute la nuit, et puis à un moment, il faut bien qu'elle aille dormir. Donc, elle a le choix entre un petit hôtel tenu par un petit couple, où ça va lui coûter 100 dollars la nuit, et des, comment on appelle ça, des hôtels capsules, comme au Japon, Capra, où là, c'est qu'une dizaine de dollars, donc souvent, le choix est vite fait. Ah, oui. Mais voilà, ça permet aussi de se rendre compte de toute la portée morale, etc. Donc, voilà.
Mais en termes de jeu, ça donne quoi exactement? Parce que Nightcall, qui était à peu près dans le même style, lui nous avait pas mal déçu côté jeu, parce que le système d'enquête était, il y avait pas d'enquête quoi. C'était on mettait des faits devant les yeux et puis à la fin tu choisissais sans avoir à faire le moindre travail. Là ça consiste en quoi exactement? C'est plus du roman, enfin du visual novel
Il y a un peu de ça, c'est-à-dire que
tu vis la vie d'un chauffeur.
Le truc c'est que au début du jeu, donc sa vie va offrir, ça c'est vrai que je l'ai pas évoqué, sa vie va offrir à Lina un bracelet Filgrid. C'est le nom de la marque de cet objet qui permet en fait de déterminer, tu sais, un peu comme quand on était enfant, les bacs qui changent de couleur pour savoir si on est heureux, triste, etc. D'accord. Le Filgrid fait exactement ça. Ce qui fait que dans certaines situations, on peut juger des sentiments de Lina parce qu'on voit que le Filgrid devient rouge, donc on comprend qu'elle est un peu énervée. Alors, les différents états émotionnels permettent d'activer d'autres types de conversations. Et surtout, ça permet un peu de savoir où on en est par rapport à la personne, où on est Lina, pour pas trop varier, même si des fois, et c'était le défaut que, un petit peu le petit bémol, c'est que parfois, les choix sont finalement imposés, parce qu'on peut cliquer sur un choix, et là, il y a une petite voix intérieure de Lina qui dit « Ah ouais, mais si je dis ça, ça va partir en vrille et tout », donc ça nous impose un autre choix. Alors j'imagine que c'est pour la cohérence du récit, parce que tu me parlais de comment on joue exactement, finalement, ce n'est que des conversations, ce ne sont que des conversations, et le fait d'aller choisir sur la carte ses clients, d'aller recharger sa voiture électrique en choisissant en général, si on peut, la station où le plein va être le moins cher, à faire. Mais ça s'arrête là, et après l'intrigue, l'enquête se dévoile d'elle-même à travers le récit, tout en sachant que après chaque course vous êtes noté comme un chauffeur Uber. Donc selon la conversation que vous avez eue avec la personne, elle va vous mettre plus d'étoiles ou moins d'étoiles, mais si vous tombez en dessous des 2 étoiles et demie, ça peut vous retirer votre licence. Donc il y a tout un jeu à faire avec ça, en gardant en même temps son intégrité dans sa conversation par rapport aux personnes, en disant pas des trucs qui vous ressemblent pas, mais en même temps en ayant conscience que si on fâche peut-être un peu trop, on va perdre ses étoiles, etc. Donc il n'y a pas un gameplay très profond, il n'y a pas de QTE, il n'y a pas des choses d'enquête à lier, mais l'écriture des personnages et la trame générale est tellement passionnante que voilà, on sait qu'on est, si on a bien conscience qu'on est vraiment face à un jeu où il va s'agir de cliquer sur différentes réponses pour une conversation, s'il n'y a pas de problème avec ça, c'est un jeu vraiment extraordinaire, quoi. Un des mieux écrits en tout cas que j'ai vu depuis bien longtemps.
Eh ben, par contre, moi, je me demandais ce que c'était que l'œil dessus du logo NeoCab. Ça a aucun rapport avec.
Non, je crois pas que ça ait
Big Brother style ou
bah,
je sais pas
si,
quoi.
Bah, si, c'est Big Brother, oui, bien sûr. C'est. Il y a pas d'explication, disons. Mais
tiens,
oui,
il y a des
yeux aussi,
partout, partout là-haut. Là. D'accord.
Bah, c'est un capre.
Un capre, c'est quoi un capre?
Bah, tu sais, c'est des
qu'on met sur la pizza.
C'est des petits, légumes. Okay. Bah voilà, capra, non?
Ok. Bah, je sais pas, non, je parlais de ça, moi. Tu vois,
t'es obligé de tout ramener à la pizza et à l'Italie, toi.
Ah, mais ça, c'est
l'italien.
Le petit œil qui nous regarde.
Ah, d'accord, tu parlais du logo du jeu.
Du jeu.
Ah, d'accord, pas de la société.
Pointeur avec une demi-lune à l'intérieur.
Oui, ça fait un peu un pointeur, tu sais, de localisation.
De localisation Facebook,
ouais, peut-être aussi.
Google ou.
Ouais. Avec une pince qui vient t'attraper.
La corporation.
Ah ouais. Bah je vois un œil, mais bon après.
Ok, tu vois un œil si tu veux.
Tu te rappelles de Secret Story? Ça commençait comme ça. It's non, Love Story.
Ah mais
Love Story. Love Story, ça commençait comme ça.
Avec un petit œil.
Ok.
Bon bref, bon bah très bien, pour Neo Cab, donc t'as mis 8, indispensable.
Ouais, indispensable.
Donc t'as joué sur PC, mais il sort aussi sur Switch.
Oui, et ça, et c'est il est disponible sur plateforme iOS et Apple Arcade.
Et en français, voilà. En plus, enfin traduit en français.
Et en français. En et vraiment bravo à ceux qui ont adapté ce jeu, parce que la VF française, faut le souligner, hein, on le souligne des fois quand ça
ouais,
marche.
En général,
pas.
Ça marche.
Là, elle est vraiment
bien.
Exemplaire, et c'est évidemment très important pour cette expérience-là, quoi. Voilà.
Farpé, bah merci beaucoup, donc Neo Cab. Troisième et dernier jeu que tu as pu tester chez nous, Indivisible. Je sais pas comment le dire en anglais, Indivisible, je sais pas bien.
Ouais. Tu te rappelles de Love Story, mais par contre, pour dire Indivisible en anglais. Hein.
Je me rappelle de 505 Games aussi. Ouais. Et de Lab Zero Games.
Et bah donc, Lab Zero Games, qui sont. Enfin, ils s'appelaient pas sous ce nom-là à l'époque, mais ce sont les gens qui étaient derrière Skullgirls. Je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu d'action.
Skullgirls.
Avec justement ces graphismes très animés.
Des graphismes à la Johnny One.
C'était même un jeu de baston, non?
Oui, c'est un jeu de baston, Skullgirls, ouais.
C'est un jeu d'action.
Ah oui, pardon.
Oui, c'est un jeu de baston.
Ça reste de l'action, mais
tout à fait. Et donc pour ce nouveau jeu, on retrouve de nouveau cette équipe. Et puis, bah, je pense que déjà ça se voit un peu avec ce style visuel. D'autant plus qu'on incarne une nouvelle fois une héroïne qui est très fort en bagarre, qui s'appelle Ajna. Mais là, cette fois, on est dans un univers de fantasy qui s'inspire de certains mythes de l'Asie du Sud-Est. Mmh. Alors bon, c'est pas totalement flagrant non plus, parce que c'est évidemment réinventé à la sauce animée. Mmh. Mais en effet, on peut trouver il y a ce personnage par exemple avec son turban d'Indien, enfin voilà.
Il y avait un catcheur mexicain, c'est moi.
Ouais. Je pense que c'était l'Indien dont je parlais.
Ah d'accord.
Voilà, en bas.
Ah ok.
En bas,
ah je croyais que c'était un masque. Ok.
Il se bat avec son turban.
Quand t'as un Ajna qui s'énerve.
Et justement, c'est l'une des grandes forces d'Invisible, c'est Indivisible, c'est cette galerie de personnages qui sont tous assez chouettes. Ils sont pas forcément tous très charismatiques, mais au moins ils sont toujours assez rigolos, amusants ou mignons, quoi. Enfin, on les retient. Et les personnages sont évidemment importants dans un genre comme le RPG, ce qui est Indivisible et qui est à la fois un jeu de plateforme. Pour donner une idée du déroulé, en gros on va se promener dans ces niveaux où on va pouvoir avec Ajna rebondir sur les parois, s'accrocher avec sa hache pour se rattraper à un bord, et puis vous l'avez vu aussi dans la vidéo, utiliser ses pouvoirs pour aller plus vite, parce qu'Ajna elle a la particularité, justement tu parlais de l'œil tout à l'heure, elle a le troisième œil.
Ah ouais, j'ai vu ça,
qui lui permet en fait d'accéder à son fort intérieur, et on le sait pas au début du jeu, mais ce fort intérieur en fait se matérialise par une sorte de dimension parallèle dans laquelle elle aspire, entre si on peut dire ça comme ça, les personnages qu'elle va rencontrer qui vont faire partie de son équipe, ce qui fait qu'elle se déplace toute seule sur la carte, mais dès qu'on rencontre un ennemi de manière dynamique, hein, on les voit sur la carte et on peut les attaquer pour déjà un peu les assommer et leur enlever déjà un peu de points de vie, ils apparaissent à ce moment-là. Alors vous l'avez peut-être remarqué avec les trois petits boutons qu'on trouve sous les personnages. En fait, dans ces équipes de 4, chaque personnage est associé à un bouton de la manette.
À la Valkyrie Profile.
Exactement, voilà. Et du coup, ça donne un système de jeu qui est assez dynamique et où tout l'intérêt repose sur en fait la synchronisation entre les différents personnages, pour lesquels il faut connaître aussi quel type d'attaque ils vont effectuer selon que on appuie sur leur touche, évidemment, dédiée, et sur une direction. Si on fait, par exemple, le rond et haut sur un personnage, ça va pouvoir faire un soin sur tout le monde, mais si on fait rond et bas, là ça va être une attaque par le haut sur l'ennemi. D'accord. Et vice versa. Par exemple, il y a certains personnages, certains méchants en armure, on ne peut vraiment leur enlever des points de vie qu'une fois qu'on les a fait valdinguer dans les airs, en juggle, quoi, façon jeu de combat. Et donc il faut un peu voir quelles sont les meilleures combinaisons entre les personnages pour les faire valdinguer.
Ils évoluent tous ou pas non.
Alors il y a un système.
Il n'y a que la principale.
Non, chaque personnage a un système. Il y a des niveaux d'évolution.
Des niveaux.
Après, c'était donc la conclusion de mon test. Moi, je trouve que c'est un jeu très sympathique. Déjà parce que vous pouvez le voir, les graphismes, la bouille des personnages, leurs animations sont toujours assez charmantes.
Ah,
il y a quand même du beau monde qui a travaillé sur ce jeu.
Comment sur l'intro?
notamment sur l'intro. Donc on doit à Yo Yoshinari du studio Trigger, qui est le réalisateur de la série Little Witch Academia. Vous la trouvez sur Netflix, hein, si vous voulez donner une idée. C'est un animé plutôt rigolo et surtout avec une animation de très bonne facture. Et pour les plus nostalgiques, on trouve Hiroki Kikuta, le compositeur de Secret of Mana, pour faire les musiques de ce projet qui à la base était donc un projet monté par le financement participatif. Ça a été un petit peu compliqué de le monter et finalement ça s'est fait.
Comme Shenmue.
Voilà. Et c'était une très bonne chose parce qu'on retrouve, je pense que pour tous les joueurs et les joueuses de notre génération, on retrouve justement cette saveur des JRPG d'antan, avec une très belle intro animée, avec des personnages assez rigolos et tous assez différents. Le seul bémol, c'est que c'est un jeu que moi j'ai trouvé très sympathique, mais faut pas s'attendre à un RPG d'une grande profondeur.
Mais justement, moi je trouve que pour les néophytes ou ceux qui veulent pas trop se prendre la tête comme moi par exemple sur les RPG, je trouve que c'est un jeu qui fait.
Oui. C'est vraiment un RPG sans prise de tête.
Qui peut être voilà.
Parce que t'as pas d'inventaire, t'as pas de stats, t'as pas de matériel d'invocation, je sais pas quoi. Donc.
Et le côté plateforme, un peu aventure, etc.
Après, je sais que c'est aussi un plaisir pour beaucoup de joueurs de RPG justement de passer des heures dans les menus pour trouver la meilleure arme, la meilleure combinaison d'invocation,
ça
etc.
peut faire du bien de faire une pause aussi,
voilà. C'est ça.
Et pour en enchaîner beaucoup en ce moment, je me dis tiens, le RPG sans item, sans armure, etc.
Juste pour moi, quoi.
Ouais.
Pour moi,
ça peut être plutôt cool,
exactement. Et c'est un parti pris qui est assez sympa parce que ce manque de profondeur il est vraiment il n'est pas préjudiciable parce qu'il y a un vrai dynamisme dans le jeu.
Oh, c'est ça. Tu t'ennuies pas, quoi.
Du fait des combats. Bon, il peut arriver par moment que ça devienne juste un match-up un peu violent, qu'on bourrine juste un peu les touches dans certaines situations, mais il faut quand même un peu la jouer stratégique, savoir comment bien équilibrer ses équipes. Et là où je me dis aussi que il y a une vraie réussite de ce côté-là, c'est que évidemment, vu qu'on rencontre presque plus d'une vingtaine de personnages dans le jeu, alors que ça soit des nanas en armure super balèze ou des chiens
ou des
petite nana qui a comme animal de compagnie un aigle géant qui se bat en combat avec nous, enfin c'est très rigolo. On a que 4 places, donc des fois il faut laisser certains persos de côté. Et à chaque fois on se dit ah non mais lui je l'aime bien. Donc voilà, ça c'est une preuve supplémentaire pour dire que il y a vraiment c'est vraiment un jeu très sympathique
que tu peux refaire du coup pour essayer
exactement.
De garder les autres persos, etc.
Pour juste préciser ça aussi sur l'aspect plateforme, évidemment vous l'aurez compris, il y a aussi un peu
dramatique RPG Battles,
du Metroidvania si on veut, c'est-à-dire que il y a évidemment certaines zones qui sont pas accessibles partout, les joueurs les plus curieux pourront trouver des choses un peu sympathiques à droite à gauche. Donc voilà, un jeu très sympa et à la fois un peu nostalgique et en même temps qui sait peut-être justement faire s'écarter des classiques imposés, des dogmes, pour faire un truc assez rigolo
qui s'est adapté aussi peut-être à l'époque pour les gens qui veulent pas trop se prendre la tête, effectivement.
Yes.
J'ai une question très importante
et très technique.
Les musiques de Kikuta, elles sont bien ou pas?
Alors, elles restent dans la tête. De là à dire que moi j'achèterais la BO ou je la mettrais dans mon téléphone pour l'écouter, bon,
il y a un pas que tu vas pas franchir.
Voilà, c'est ça, exactement.
Il a pris son chèque, il a fait un truc sympa et puis.
Voilà, vraiment les mélodies te restent en tête, mais je suis pas resté face à certaines musiques.
Est-ce que tu crois qu'il a fait du bénévolat, toi?
Bah, c'est possible.
Ok.
Ça peut arriver. Hein.
Vas-y, fais ça toi aussi.
Non, moi je peux pas, c'est pas possible. Je suis trop mauvais en musique. Eh bien, parfait. C'est sorti donc le 8 octobre et sur PC, PS4, Xbox One.
Et ça arrive sur Switch, mais on n'a pas encore de. Normalement, c'est cette
Switch,
année,
pardon.
Mais on n'a pas encore de date précise. Voilà.
En tout cas, t'as mis 7 sur 10 sur le test disponible sur Gameblog. Donc, allez-y, sans problème. Hein, si vous aimez le genre, ça peut être très très sympathique. Bien, merci Tiger pour tous ces tests de la semaine que tu as pu faire. Il y en a d'autres qui t'attendent évidemment, mais nous en reviendrons plus tard.
On va pas te louper, mon pote.
On va pas te louper. Plume.
Ouais.
Je crois que c'est l'heure de faire un peu de fitness là.
Ouais, de se remettre un peu en forme.
Exactement.
Absolument.
Avec
parce
Ring
que...
Fit que t'as pu voir.
Moi, j'ai même pu l'essayer même.
T'as pu l'essayer.
J'ai
t'as
même
pu
carrément
voir,
pu
tu l'as
l'essayer.
Ramené, tu l'as
avec
volé,
mon coach personnel
et
à côté
revendre,
de moi qui
eBay,
m'encourageait, qui m'expliquait le jeu. Qui me disait ce que je devais faire et tout. Alors,
t'as pu prendre des smoothies ou pas sinon?
j'en ai bu un vite fait et avec
une barre
de céréales pour essayer de me remettre un peu en forme. Ring Fit Adventure, donc vous vous rappelez sûrement cette bande-annonce un peu surréaliste,
mais non,
sur laquelle
bien.
Tout le monde a bloqué parce que voilà, ça fait téléachat et que le monsieur est peut-être un petit peu trop enjoué. sur la présentation de cette expérience assez différente. Hein. Nintendo va revenir au fitness avec Ring Fit Adventure qui sort le 18 octobre prochain sur Switch. Et donc, c'est pas un Wii Fit comme on aurait pu le croire. En fait, c'est une espèce de rencontre entre un RPG et le fitness. Alors, je sais que c'est pas un truc auquel on pourrait penser au premier abord comme ça. Tu te lèves le matin, tu te dis je vais avoir une bonne idée. C'est pas le premier truc. Tu te dis pas je vais faire, ça va être mon idée. Mais bah c'est pas si con que ça.
C'est plus une idée de bourré, non?
Ouais.
C'est, bah, voilà. C'est surtout un accessoire en fait que tu utilises.
Alors
le sangle machin truc.
Le sang quoi?
Le sangle bidule.
Mais c'est toi le sangle. Qu'est-ce que tu racontes?
La sangle de jambe.
Mais pas du tout. Alors on a deux accessoires effectivement qui sont fournis pour pouvoir essayer d'avancer dans un jeu qui est en fait une longue campagne solo dans laquelle on va faire plein de sports et plein de yoga et plein de fitness. Donc premier accessoire, c'est le Ring Fit dans lequel on va ficher donc le Joy-Con.
Sa tête.
Le Joy-Con
dans le cercle en fait.
Gauche. C'est le gauche.
Ouais, gauche ouais.
Et de l'autre côté sur la jambe, on va fixer avec une sangle cette fois.
L'autre Joy-Con.
Le Joy-Con droit.
C'est l'inverse.
Mais le gauche. Là, c'est le droit hein, qui est en haut, hein, il semble. Oui, d'accord.
C'est pas grave, peu importe. Ils vont le découvrir.
Non.
De toute façon, tu vas nous faire le test, la vidéo et tout.
Il y a une différence parce qu'avec le Joy-Con droit. Non, oui, c'est le droit. Il y a le capteur infrarouge. Et c'est vrai. Sert un petit peu, mine de rien. Donc, c'est très facile à installer. Et une fois
d'ailleurs,
une fois qu'on rentre dans le jeu, donc, on se trouve avec une petite histoire de démon bodybuildé qui sort pour faire mal à tout le monde. Toi évidemment
c'est le moment de mettre le son des locaux.
Tu es aidé par une espèce d'anneau qui va te dire ah ben faut que tu fasses du sport avec moi pour sauver le monde.
Pour sauver la
donc
Terre.
Tu vas avancer, il y a 20 niveaux en tout. Et tu vas avancer de case en case sur une gigantesque world map où il y aura aussi des quêtes annexes de ce qu'on m'a dit. Et donc, à chaque niveau que tu peux faire, tu avances en courant. Et donc, pour courir, et ben, tu lèves les jambes, forcément, tu sautilles sur place. Il faut savoir aussi qu'il y aura un mode silencieux. Parce que tout le monde ne vit pas dans un appart de bourgeois.
Oui.
Ou dans une maison de bourgeois.
Ou une villa, oui.
Donc du coup un mode silencieux dans lequel tu n'auras pas besoin de sautiller, tu auras juste à faire des flexions, extensions de tes chevilles pour avancer. Donc ça c'est déjà le truc. Et chaque niveau donc tu vas courir et effectuer plusieurs mouvements avec ton courir sur place, oui, avec ton Ring Fit dans la main. Et le Ring Fit donc va te servir à quoi? Eh bien quand tu vas par exemple croiser des pièces, tu vas tirer dessus pour aspirer les pièces qui vont te servir plus tard pour acheter des trucs. Tu peux t'en servir aussi en l'orientant vers le bas et en pressant, et bien ça devient une espèce de jetpack qui va te faire un peu décoller. Il y a plein d'utilisations comme ça dans les niveaux en eux-mêmes, notamment aussi la possibilité de faire du kayak. À un moment, si tu te retrouves à croiser un bateau, tu rentres dedans et donc tu mets le Ring Fit devant toi et tu fais des mouvements de bassin comme ça pour essayer de pagayer le plus vite possible. Il y a plein d'applications comme ça, mais c'est évidemment dans les combats, parce qu'il y a du combat du tour par tour façon RPG face à des créatures un peu bizarres. Il va falloir essayer de t'adapter. Et comment tu les affrontes, ces créatures bizarres? Eh bien en faisant des mouvements de fitness, de sport, tout simplement des mouvements qui sont à chaque fois assignés à des couleurs. Donc chaque couleur correspond à une zone du corps que tu vas faire travailler pour les affronter. Et bah c'est simple, il y a l'ennemi qui est en face de toi, tu dis je vais l'attaquer avec tel mouvement. Alors ça peut être du tir à l'arc, ça peut être des squats, il y a plein de mouvements comme ça, je sais plus combien il y en a en tout qui vont être proposés. Donc si tu réussis bien tes mouvements, que t'as la bonne pose, parce que mine de rien c'est assez précis, tu dois vraiment avoir la bonne position et la reconnaissance globale est plutôt bonne. Donc une fois que tu fais ça, tu leur envoies des coups dans la gueule, eux ensuite doivent s'attaquer. Tu places le Ring Fit contre toi et tu presses contre tes abdos pour créer une sorte de bouclier. Donc voilà, c'est un enchaînement comme ça au tour par tour. Et à la fin, bah, tu gagnes et tu continues comme ça au fur et à mesure. Et tu fais toujours des mouvements différents. T'en gagneras d'autres par la suite qu'il faudra toujours composer en fonction des niveaux que tu vas traverser et en fonction des couleurs donc, qui sont assignées à tes ennemis pour ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un truc que j'ai oublié, c'est que des fois.
Le mec, il est à fond là, sur la
tu
vidéo.
Fais... Ah bah, c'était un vrai coach sportif hein, qui m'a accompagné.
Alors que t'as monté de genoux là.
Ouais.
Ah bah ouais, moi, il me dit.
Me planter de genoux.
Il me disait juste de monter les genoux, hein. Il me disait pas de sautiller
bah, si,
en montant les genoux.
Fallait faire comme lui ou pas.
Oui, parce que quand c'est les escaliers, il faut bien monter les genoux, sinon ça marche pas forcément super. Voilà, donc je me recoiffe évidemment.
pour la caméra.
Exactement. Donc, dans les faits, on dit ça comme ça. Et on te le présente avec la première vidéo qu'on a vue. Bah, tu te dis ça marchera jamais. Puis ensuite, tu l'essayes.
Ah bah moi je pense que je meurs au bout de 5 minutes.
Tu l'essayes et c'est plutôt efficace, c'est plutôt bien pensé.
Bah tu fais du cardio, tu fais des mouvements.
Exactement.
Des assouplissements, etc.
Du yoga donc, aussi. T'as toutes ces choses là que tu vas mettre en application dans la partie aventure. Après évidemment t'auras des mini jeux, t'auras un programme de fitness à faire pour toi-même. Pour les mini jeux il y aura des scores. Évidemment il y aura des classements mondiaux. Tu vas avoir toutes tes stats aussi qui vont être prises en compte. Y a moyen avec la partie aventure bah déjà de se divertir tout simplement.
C'est ça, ça reste
oui,
fun.
C'est plutôt ça.
C'est ça, ça reste fun voilà. Parce que finalement,
qu'à mon sens, rien ne vaut quand même. Tu parlais des positions par rapport pour le yoga, rien ne vaut un professeur pour.
Et tu t'y connais.
Pas se faire
en
mal.
Yoga.
Absolument, exactement. J'ai été yogi de 96 à 2002.
C'est vrai. En même temps que le yogi kudu.
Ouais, tout à fait.
Ah, c'est incroyable. Et donc non, mais vraiment, je trouve que la partie aventure. Alors pour certains ça fera rire, moi je trouve que c'est plutôt sympa de penser à habiller un petit peu et à proposer autre chose qu'à un truc plat et puré oui. Comme ça pouvait être le cas à Wii Fit, même si c'est pas très grave de faire des choses comme ça.
Et puis bon, même s'il y avait des trucs rigolos dans Wii Fit, hein. Moi je me rappelle des preuves et tout, la mise en scène, il y avait des trucs marrants. Hein.
Non et puis là ça a l'air chouette, les couleurs, la DA sont sympas, enfin il y a eu un peu de recherche quoi.
Ouais, ouais, puis je pense que si t'as bouffé des champis avant, ça passe.
Non mais
ça
même,
passe
même
super
le
bien.
Monstre bodybuildé au début il est rigolo quoi. Celui qu'on a vu, enfin.
Je te laisse tes propos.
Je te laisse tes propos.
Voilà, ils t'appartiennent. mais après, voilà, si vous voulez vous faire un peu de compète, c'est possible. Si vous voulez comparer avec d'autres potes qui auront ça online, c'est possible. Si vous voulez faire des progrès. Bah, c'est. Hey, n'empêche que tu rigoles. Là, hein hey, mais moi, je vais te défoncer, moi.
Je t'imagine en train de passer les coups de pied. Enfin, t'en es où dans Equip, là
Ringo, Fito.
On se fait ça ce soir. Ouais.
Tiens, t'as même la petite adresse, regarde, t'as vu.
La compète.
Si vous voulez aussi vous faire tout simplement des programmes pour essayer à nouveau de retrouver la forme, ce qui n'est pas forcément gagné. Bah c'est possible aussi. Donc on verra avec
comme
le test.
Comme sur Wii Fit quoi. De toute façon c'était
absolument.
Chaque jour un petit peu et tu voyais ta progression etc.
Ouais. Bon on verra en tout cas avec le test jusqu'où ça va, si ça se diversifie au fur et à mesure, s'il y a un plot twist de cinglé pendant le truc. Enfin.
D'ailleurs, voilà. D'ailleurs c'est peut-être pour Ring Fit si vous voulez faire le fameux sensor machin.
Vitality là. Sensor.
Vitality sensor.
Ah.
Parce
ouais.
Que ça aurait pu correspondre à ça. Et pour bah, les battements du cœur et tout.
C'est vrai.
Sauf que là tu le vois visiblement.
En fait tu.
Ils ont dû abandonner la chose.
Tu peux le capter à la
ah,
fin.
Ah tu peux le capter.
Ouais, tu le captes à la fin. D'accord. Avec tu mets ton pouce sur voilà.
Ah, bah,
sur,
là, ils l'ont fait comme ça alors.
Sur le capteur infrarouge du Joy-Con et tu peux voir donc à la fin que j'ai un rythme cardiaque absolument
bordélique.
Extraordinaire, mais alors extraordinaire.
Rachel cardiologue direct.
Là on est au pic d'effort. Là.
Ah non, mais
là t'avais envie de vomir. Là,
là on le verra pas en fait parce que ça a merdé.
Après
j'étais à 141. Voilà.
Oh, putain.
Ouais, j'étais à 141 et non mais mon coach en plus il me dit non mais ça va. Non, et je,
merde,
oui bah ok t'as raison, je vais peut-être
après,
aller.
Après c'est peut-être pas ultra précis non plus. Hein, mais bon.
Je pense que c'est assez précis non. Sans plus. Mais après je suis redescendu à 60, tout allait bien.
Mais l'essentiel c'est que ça redescende vite.
Oui, il vaut mieux.
Si ça redescend pas vite, c'est qu'il y a un souci.
Bah bon. Voilà, 141, et là, yes, voilà. mais en fait, j'ai pas compris que c'était pas le score, en fait. Donc voilà.
Génial, j'ai de l'attention.
Je suis un accident cardiaque.
Donc voilà, vous, y a évidemment une montée en niveau au fur et à mesure, plein de choses à récupérer. Moi, je vous dis, on verra avec le test, mais je le sens plutôt pas mal.
Ouais, ça peut être sympa comme alternative, je trouve, par rapport aux jeux classiques qu'on voit.
Surtout pour des gros sacs comme nous.
Je me demandais juste un truc, vu qu'il y a une dimension RPG, est-ce que c'est un jeu un peu ouvert ou est-ce que tu cours en permanence vers l'avant, vers ton prochain objectif?
Bah, c'est les mondes dans lesquels tu vas
passer. C'est super fermé, de toute façon.
Les niveaux dans lesquels tu vas passer, c'est toujours des trucs comme ça.
Bah oui.
Tu as vu un parallèle avec Valkyrie Profile ou...
Oui. Oui, absolument, parce que si tu meurs vraiment.
Ah, ok, très bien.
Ouais. Comme dans Valkyrie Profile.
T'imagines? En vrai de vrai.
exactement.
Et bah parfait, hein. Donc
faut
ça sort
plein de gifs avec cette vidéo.
Non, on va rien faire du tout.
On va demander à Eve, ouais, de s'en occuper.
Ouais, ou aux gens du Discord.
Elle va pas te louper.
Lâchez-vous.
Non, pas, mais t'as une élégance dans la course que tout le monde n'aurait pas.
Exactement. Bah,
surtout sur place, dans la course sur place.
T'en dirais un joueur de foot italien, bizarrement.
Ouais. C'est vrai, ça.
Absolument.
Il va se rouler par terre bientôt.
Bon, en tout cas, ça sort le 18 octobre.
Ouais.
Pour 60 pifs.
Environ 60 euros.
Jean Davila.
Ouais. Et là, vous pouvez voir mes abdos en béton. Voilà.
Bien sûr, évidemment. Mmh. Tiens, tu m'as même pas pagayé, t'as vu ?
Ouais, je te le dis.
Quand on voit sur la vidéo.
Écouté, ou pas ?
Si, je sais, mais là, je vois à l'image. Tout à l'heure, on voyait pas.
Bah ouais.
Et là, c'est comme ça que tu pagayes, toi. Tu bouges de gauche à droite.
T'as vu la tronche
Ah ouais, je fais ce que je veux.
Ça va déjà.
Ouais, mouvement de basse.
Très bizarre.
Donc voilà.
Bah parfait, parfait. Donc Ring Fit, 18 octobre, 60 euros. Et puis, de toute façon, c'est toi qui vas être obligé de le tester.
Attends, j'ai pas le choix.
T'as plus le choix.
Bah ouais.
Vu que t'as 140 pulsations à montrer à l'écran.
Ouais, et dans 2 mois, je suis bodybuildé.
Exactement, on verra ça. D'ailleurs, Plume va faire une rubrique spéciale Ring Fit.
Absolument, ouais.
Chaque jour, il mettra ses scores et dans 3 mois, on verra où il en est.
Bodybuilding et jeux vidéo, il y a un créneau à prendre.
Exactement, petit O. Bah, parfait, parfait. Donc, Ring Fit
Adventure.
Adventure, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a un nom.
Il vaut mieux préciser.
Tout à fait. Merci beaucoup.
Bah, de rien.
Et il est l'heure maintenant de passer à l'anniversaire, n'est-ce pas, cher Thomas.
Ouais, exact. Heureusement que tu me le dis. Oui, l'anniversaire de cette semaine.
Oui, ok, effectivement.
C'est.
Et rappelez-vous,
Doom 2.
C'est avec John Romero qui avait des cheveux à l'époque.
Eh ouais, ah oui, il en a toujours, t'inquiète
je
pas.
Je sais, ouais.
Il est juste un peu plus.
Mais c'est défaut maintenant.
Fatigué. Doom 2 qui sortait le 10 octobre 1994 sur MS-DOS.
C'était l'époque Nirvana, hein, ça se sent.
Ah, complètement, ouais. On est encore dans le grunge. Octobre 94, Cobain s'est flingué ou pas encore?
Oui, c'est un peu plus
non.
Tard.
Il me semble. Hein.
Non.
C'est pas
non.
Plus tard
c'est non, pas non, c'est plus tard.
95,
95 ou
96 même.
Bon, alors bref, on écoutait du Nirvana bon. En jouant à Doom 2.
Vas-y, vérifie.
Forcément, un jeu culte qui est ressorti il n'y a pas très longtemps sur PS4, Xbox One et Switch. Avec les recommandations de Bethesda que l'on sait au démarrage, mais qui, moi, je l'ai vraiment attendu déjà à l'époque. J'avais qu'une hâte, c'était de jouer à la suite de Doom, et il explose le premier sur à peu près tous les plans. Les niveaux sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus vastes.
Bah, il y a plus travaillé aussi, c'est sûr. Hein.
Ouais, il y a énormément de recherches et de prise de tête labyrinthique dans les différents environnements de Doom 2. Surtout, il y a des nouvelles armes, parmi lesquelles, je crois, le Super Shotgun, qui est toujours l'arme préférée des mordus de Doom.
Évidemment.
En plus de la tronçonneuse qui remplaçait le coup de poing. Mais bon, voilà, un jeu forcément culte et qui, en plus, occupe une place un petit peu particulière dans mon cœur. Pas forcément la bonne, mais Doom 2, en fait, c'est le jeu qui m'a fait arrêter de jouer sur PC.
5 avril 1994.
Kurt Cobain,
oui.
Ah non, qui était mort. Donc on écoute.
Bah oui.
On écoutait.
Faut m'écouter un petit peu quand je vous dis que.
On écoute. Ouais,
moi je me rappelle. Moi j'ai pleuré. Moi.
C'est
non,
vrai.
Je déconne.
Bah ok, très bien. Tu as le monopole de l'émotion. De
la... Voilà. Exactement.
Il n'y a pas le monopole du cœur, monsieur.
Quand, en plus,
et donc tu disais.
Juste Poufy vous montre là. Ça fait part. Je crois que c'est le deuxième stage ou deuxième ou troisième stage avec des embranchements dans tous les sens, des ennemis qui pop, plein de niveaux de difficulté. Enfin, il y avait vraiment énormément de choses à faire pour l'avoir reterminé il y a pas très longtemps. Ça reste un ponte du fast FPS et me montre pas un truc parce que je suis en train de parler, j'arrive pas à lire en même temps.
C'est vrai, moi je préfère à ta place.
Mais attends,
Doom Eternal retardé de plusieurs mois. Voilà,
tu disais que Doom 2, t'avais arrêté le jeu PC.
Ouais,
ou arrêté
ouais parce qu'en fait je l'ai acheté sur Windows, j'avais Windows 95 à l'époque.
Et ça a tout scratché.
Non, en fait j'avais pas un processeur, je crois, assez balèze pour bien faire tourner le jeu et du coup j'avais la moitié de l'écran qui était bardé de barres de pixels dégueulasses.
Oh,
et mon père m'a expliqué que non, il faut faire attention au processeur qui est écrit derrière la boîte et tout.
Il avait raison.
Et là, je me suis dit, quoi ? C'est
l'argent,
ça
coûte cher.
C'est ça le PC.
Non, je me suis dit, c'est ça le jeu PC. Putain, ouais. C'est de la merde. Et j'ai arrêté de jouer sur PC après Doom 2, en fait. Voilà.
Je te comprends parce que je pense que.
Et du coup, je me suis dit, les consoles, c'est bien. Tu mets ton jeu, t'allumes et ça marche. En fait, y a pas
Doom 2 qui t'a fait vriller, quoi. C'est ça.
Ouais.
C'est
ouais,
marrant.
Alors que c'est un grand jeu pour moi.
J'ai le générique d'Amicalement Vôtre dans la tête, mais tu sais, mais avec d'un côté Camille et d'un côté Thomas.
Ouais, c'est vrai.
PC, console.
PC, console.
Ouais, mais alors que j'ai commencé sur micro-ordinateur et je joue encore beaucoup sur PC à cette époque-là, mais voilà.
Ça pourrait faire un super générique, ça.
Donc voilà, Doom 2, si vous n'y avez pas joué depuis longtemps ou pas joué du tout, bah vous pouvez vous le procurer aujourd'hui sur toutes les consoles du marché actuel. Et franchement, ça reste un super fast FPS, vraiment avec un level design super bien branlé.
Mais moi depuis Doom 1, j'ai pas eu de. Bah après, je suis pas un expert en FPS depuis le temps, pour être honnête. Mais j'ai jamais autant flippé dans un jeu que premier Doom 1, quoi. Avec le casque sur les oreilles.
Le bruit des hymnes.
C'est hallucinant. Tu te retournais tellement tu. Enfin, tu sentais la peur derrière toi, quoi. Tu ne savais plus quoi faire. Tu
ouais, puis quand
tu
as les bruits de téléportation, tu sais que tu vas avoir un gros strum qui va être arrivé dans la pièce. Et puis, bon, des boss gigantesques aussi dans Doom 2. Enfin, le cyberdémon et l'araignée géante qui étaient là. Et dans le boss de fin, d'ailleurs, les développeurs s'étaient amusés à planquer une photo de Romero, je crois.
Ah, peut-être, ouais.
Dans l'interstice où il fallait que tu envoies tes roquettes.
La tête de Romero. C'est pas une tête de Romero sur un pic, plutôt ?
Alors, je sais plus.
Il y a ça, mais ailleurs. Je me demande si c'est dans Doom 2 ou si c'est pas dans un autre jeu. La tête de Romero sur un pic, ça me dit quelque chose, mais de mémoire, il l'avait foutu caché dans le vrai boss de fin, et du coup, il gueulait à chaque fois que t'envoyais une roquette. Mmh. Voilà. L'époque où on savait rigoler et faire des surprises aux réalisateurs.
Bizarre. Plutôt que des microtransactions.
Et par exemple, ouais. Très bon exemple.
En tout cas, je rebondissais sur ce que tu disais parce que ça venait de tomber, Doom Eternal, repoussé depuis un mois. Voilà.
Ah merde!
C'est sur le site, donc.
C'est à cause de toi.
Voilà.
Ah oui,
on parlait de Doom et tout d'un coup. Hop,
ah oui, non, mais
ils ont entendu parler du fait que t'avais arrêté de jouer sur PC à cause de Doom. Ils ont dit,
tu rigoles, j'ai vu Doom Eternal, j'ai trouvé fantastique.
Ah, tu colleries. Ben voilà, c'est repoussé officiellement depuis un mois.
Non, mais justement, si vous avez aimé Doom 2016 et que vous attendez Doom Eternal, on retrouve vraiment la recette du fast FPS tel qu'il l'était dans les années 90. Donc, allez-y, qu'est-ce que vous attendez? La dépêchez-vous.
Donc 20 mars 2020. Parfait. Bah écoute, génial pour cet anniversaire. Mais en tout cas, ça me rappelle plein de souvenirs.
Ouais, et ça nous rappelle la mort de Kurt Cobain. Voilà.
Non, moi non, mais bon. C'est pas grave. Chacun son truc.
Parce que tu n'aimes rien ni personne.
En 94, c'était la mort de quelqu'un d'autre, hein, si tu veux, mais bon. Mais c'est vrai en plus. attends, t'as dit quoi? Avril?
Ouais.
Avril, ah ouais, 94. C'est ça. Mmh. Mmh. Eh bien, merci beaucoup. On va passer au hors-jeu maintenant.
Bah oui, c'est l'heure du hors-jeu.
Ouais.
Effectivement.
Et tu vas nous parler d'un truc super bizarre en fait.
Qui, moi?
Ouais.
Ah ouais? Mais c'est quoi qui est bizarre?
Bah je sais pas, regarde, c'est écrit là.
Ok, ça s'appelle Criminal.
Criminal?
Ouais, ça s'appelle Criminal, c'est une série Netflix qui est plutôt ambitieuse à bien des égards, notamment par le fait parce qu'elle se déroule dans 4 pays différents. En fait, chaque pays a sa série Criminal, ce qui est fait de 3 épisodes à chaque fois. Et à chaque fois aussi, il y a un casting absolument monstrueux. Alors pour l'Angleterre, par exemple, David Tennant, que beaucoup de monde connaît comme une des incarnations de Doctor Who. Ellie Atwell aussi, qu'on vient de voir à l'instant, qui est méconnaissable. Hein, là, c'est le grand amour de Captain America au cinéma, donc Peggy Carter, qui là joue une espèce de junkie paumé avec les cheveux décolorés. En France, on a droit à Sarah Giraudot, Nathalie Baye et Jérémy Régnier. Sarah Giraudot qui est absolument excellente d'ailleurs hein, dans son rôle. Et donc à chaque fois, ce sont des interrogatoires en fait qui sont menés pendant environ une heure, pendant une garde à vue. Au début, on ne sait pas exactement quelles sont les charges qui ont été retenues contre les personnes qui sont interrogées. Certaines refusent simplement de parler jusqu'à ce qu'il y ait un déclic. À chaque fois, il va y avoir un déclic qui va enfin permettre d'avoir un vrai déroulé de ce qui s'est passé, de pourquoi les personnes sont dans la pièce, un petit peu de la vie des interrogateurs, enfin des enquêteurs qui vont essayer de leur tirer les vers du nez et de leur faire avouer un petit peu leur faute. Ça parle de choses pas forcément très agréables, c'est même très noir. Je peux dire que pour la France, par exemple, on revient sur le Bataclan, ce qui est quand même quelque chose d'assez tendu. Et à chaque fois, vraiment, il y a une tension à couper au couteau. On se demande toujours, en tant que spectateur, donc de l'autre côté un petit peu de tout ça, si les personnes qui sont interrogées sont bien coupables. En général, oui. Mais,
ouais, y a pas de suspense,
mais
alors.
Pourquoi et comment, ça c'est encore une autre histoire. Et puis c'est extrêmement bien joué pour tous ceux que j'ai vus, en tout cas en France et en Angleterre, c'est du très très haut de gamme. C'est une série qui, bon, pour l'instant je vais continuer aussi hein, je vais aller vers l'Espagne évidemment et l'Allemagne. Mais toi, tu reconnais les acteurs espagnols, peut-être?
Non, pas du tout.
Ah, d'accord.
Mais je voulais savoir si ce que je comprends pas, c'est la série, en fait, c'est dans une globalité et il y a plusieurs pays ou c'est une série séparée en
ah,
selon
c'est,
les pays
c'est
en
séparé
fait.
C'est séparé, c'est chaque pays est à part.
Pays a son enquête et son intrigue.
Exactement.
Et...
Oui, c'est pas relié.
Oui, d'accord,
mais chaque pays est à part. Et ça, à chaque fois, c'est la même salle d'interrogatoire. tout le temps. Donc ça, peut-être que certains trouveront ça un peu cheap d'avoir gardé ça, mais ça fait partie aussi peut-être de l'ambiance criminelle qu'ils ont voulu distiller. Et moi ça m'a plutôt conquis, et j'attends d'aller voir dès que je suis à nouveau en vacances, c'est-à-dire ce soir, les versions espagnoles
et
allemandes.
En plus, c'est des français. Je dis, c'est des policiers anglais là en plus.
Je t'ai dit, c'est.
Là, c'est tout est bien localisé, quoi, si je comprends bien.
Ouais, tout parfaitement.
Acteur. Mais toi, t'as pas vu de renvoi en fait entre les différentes versions?
Non, pas du tout.
D'accord.
Ça va venir.
C'est vraiment.
Tu pourrais ne mater. Imaginons que les épisodes français.
Tout à fait.
Et t'arrêter là.
Exactement.
Il y a forcément un lien à la fin. Tu verras, c'est pas possible.
Ah, vas-y, trouve-le.
Parce que il a scénarisé la série.
Non, mais si tu dis que la salle est unique pour tout le monde, déjà, c'est bizarre.
Bah, ils sont pas fait chier. Voilà, tu veux que je te dise la vérité.
Ça, je crois pas une seconde.
Non, c'est pas
qu'ils sont pas fait chier. Ils ont loué le lieu, ils l'ont utilisé jusqu'au bout, et puis voilà.
Oui, mais ça me paraît bizarre.
Faut attendre la version moldave, la version japonaise pour avoir le fin mode
d'histoire. Ils ont unifié le truc, ils ont charté de manière à ce que ça soit la même chose pour.
Bah, je pense qu'il y a un but, tu verras, tu te diras, putain, t'avais raison, t'es un génie.
Voilà. Bah, va sur le net et puis trouve des historiques. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Non, parce que personne ne sait pour l'instant, mais tu verras.
C'est des infos, Traz, t'en es sûr?
Ouais, okay, exactement. Je vous l'avais dit il y a 25
ans. Il nous l'avait bien dit.
Donc voilà, ça fait quelques semaines que c'est sur Netflix. Vous pouvez foncer, du moins pour la version anglaise et française, c'est sûr.
Et les autres versions sortent quand, du coup? Tu sais pas encore.
Mais tout est disponible.
Ah, tout est dispo, mais d'accord.
Oui, il a pas eu assez de vacances, c'est tout. Il faut une semaine de plus et il aura maté les versions espagnoles et allemandes.
Et j'en aurai plus comme ça, de toute l'année. Comme ça, sera parfait. Donc voilà, je vous le conseille vivement, Criminal sur Netflix.
D'accord. Bah écoute, merci beaucoup pour ce hors-jeu. Criminal sur Netflix, donc tout le monde va aller regarder, j'imagine. Et tout le monde va s'abonner. C'est toi le premier, Thomas, évidemment.
Oh, si vous voulez en regarder un seul, c'est celui avec Sarah Giraudeau.
Ouais. C'est vrai?
Ah oui. Déjà parce que je l'aime beaucoup, et en plus parce qu'elle joue très très bien dans cet épisode.
Et tous les autres jouent mal en fait, c'est ça?
Non, pas du tout.
D'accord.
Non, mais alors du coup, est-ce que c'est localisé aussi dans le sens.
Camille qui se réveille, tu sais.
Ouais, non, au niveau des langues aussi ou pas? Est-ce que les épisodes français sont en français et les épisodes qui se passent en Angleterre sont en anglais, etc.?
Ah oui,
tout est localisé.
C'est natif.
Ok.
Ça se passe sous la loi française.
T'en as d'autres, des questions cons?
Bah non, ça va.
On sait jamais.
Bon, c'est jamais. Bah, je suis sûr qu'il y aura des crossovers et tout, tu verras. Ou pas.
Ouais.
Et bien, voilà. Hein. C'était la fin de cette émission grâce à. C'est super bon jeu.
On sait pourquoi il y a les Ghostbusters sur la table?
Non.
Parce que,
tout à l'heure,
en fait,
j'aurais demandé, ils m'ont pas répondu.
Romain est un peu avec nous par la pensée et qu'il a testé Ghostbusters Remastered la semaine dernière, je crois.
Et Kirby aussi est avec nous par la pensée.
Oui, absolument.
C'est un jeu d'origine, ça, des années 80.
Oui, c'est moi qui lui ai filé.
C'est vrai?
Classe.
Ouais. Voilà, parce que je sais qu'il est fan et que je me suis dit que ça lui ferait plaisir.
Putain, t'es trop sympa comme Mac en fait.
Bah, évidemment.
C'est vrai?
Bah, tu savais pas?
Non.
Bah, ton t-shirt et ton jean, c'est moi qui te les ai filés, je te signale.
C'est vrai, ouais. Je suis dégoûté. Ok, bon bah, c'est la fête. Papin, tu vas faire la conclusion parce que là tu m'as.
Il a rien à dire, ça veut dire que tout est vrai en plus.
Ah, tu
veux... Bien sûr, mais oui, bien sûr. N'importe quoi. Bah, moi je veux bien. Hein. Achetez-moi mes fringues, hein. Y a aucun souci. Hein. Alors là, au contraire, allez-y les gars. Tu m'achètes tout ce que tu veux, hein. Y a pas de problème.
C'est vrai?
Ouais.
Tu peux devenir ma bitch comme ça alors?
Non, pas du tout. D'accord. Ça, tu peux toujours courir.
Ok, d'accord. Bah, ça tombe bien, c'est pas l'intention.
C'est vrai?
Ouais.
Parfait. Bah voilà, hein. Je pense que à toi la conclusion.
Ah ouais, à moi la conclusion, quoi qu'il
arrive. À vous les studios!
Bah ouais, bah écoute, on va rendre l'antenne. Hein.
On va rendre l'antenne tranquillement, gentiment.
L'actu se termine comme ça.
Ouais. Presque pas facteur, car l'actu n'attend pas.
Ouais, puis de toute façon, de l'actu, il y en a encore avec l'hebdo maintenant.
Exactement. Pour trouver tout sur Gameblog Hebdo, n'est-ce pas? Tout ce que vous avez pu louper cette semaine. On sait jamais, peut-être que vous travaillez très 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 loin ou la nuit, vous n'avez pas le temps de regarder. Ben voilà, hop, Gameblog Hebdo, tous les vendredis soirs à 19h30, et voilà, et c'est la fête. Messieurs, merci beaucoup. Messieurs, dames. Toi, t'es bientôt en vacances, donc
Ouais,
je te dis pas la semaine prochaine parce que je
à
sais
plus.
Pas. Et puis, on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission Gameblog podcast. Appelez-la comme vous voulez. Merci à Poufy à la technique. Merci à Tiger, Camille, Thomas,
merci.
Plume. Et on se dit à très bientôt la semaine prochaine donc pour une nouvelle émission. À plus.
Bien
merci
bisous.
À tous. Ciao,
salut.
Ciao.